Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le chat, bonjour, comment tu vas? Incroyable. Comment ça va les petits amis? Bienvenue, installez-vous confortablement, allez chercher une bière dans le frigo, c'est peut-être un peu tôt pour la bière. On va suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Ça commence à 14h et ça va être chouette. Ouais, on va dire ça, ouais. Ouais, ça va être chouette, ouais. Et toi, ça va mieux? Ah bah oui, ça va, ouais, ça va, Imhotep. J'étais malade la semaine dernière, mais là, ça va. Je suis bien, là. C'est l'heure du café. Ouais, c'est l'heure du café. On est sur du café. Ça bouge pas. Didadidadoum. Est-ce qu'on va enfin parler de l'agriculture? Ah bah ce serait bien qu'on ait enfin des questions au gouvernement sur le sujet de la mobilisation des agriculteurs et de la dermatose nodulaire, etc. Ah non, je suis bien d'accord. Toum, toum. 10 minutes d'attente et c'est au moment où Jean dit bonjour qu'il y a la pub, vraiment Twitch. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Merci Jimmy Hero. Merci beaucoup pour ton resub. C'est vrai que c'était complètement absent comme discussion. Ah ouais, ouais. Merci Hazardman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est... Ouais. Si, si, je viens d'en avoir une. De pub ? Non, mais il n'y a pas de pub. Pour les abonnés, il n'y a pas de pub. Donc, il n'y a pas de pub. Voilà. Est-ce qu'il y a Backseat demain ? Non, 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 il n'y a pas Backseat demain. Il n'y a pas Backseat demain. On est en vacances de Noël. On est en vacances de Noël. Merci à Envoren. On reviendra en janvier. Un député a-t-il déjà posé une question sur les PAN ? C'est le nom sérieux des ovnis. Ouais, les PAN, c'est les phénomènes aériens non identifiés. Les PAN. C'est comme ça qu'on dit ovni en français. Et la réponse est non. À ma connaissance, aucun député n'a posé la moindre question, jamais, sur les PAN. Mais ils ont d'autres sujets. Ceci dit, débattre sur l'agriculture, c'est aussi opposer les idées en vue des municipales. Non. Non, enfin, je dis non. Je dis non de manière catégorique pour une raison simple, c'est que... Merci, Sleeve. L'agriculture n'est pas du tout une compétence municipale. Pas du tout. Le maire ne s'occupe de rien en matière agricole. C'est pas le sujet. Un petit peu sur le foncier, les autorisations de construction, etc. Mais c'est très marginal. Les enjeux de l'agriculture, c'est les enjeux européens sur le financement de la politique agricole commune, c'est des enjeux de marché sur les prix des denrées, c'est des enjeux de distribution. Voilà, c'est des enjeux qui ne sont pas des enjeux municipaux. Et là, en l'occurrence, en ce moment, l'enjeu est un enjeu sanitaire. On est dans un enjeu sanitaire. Voilà. Mais ce n'est pas une compétence municipale du tout. Par contre, il y a déjà eu régulièrement des questions sur les chemtrails. No joke. En France, t'es sûr ? Des questions au gouvernement sur les chemtrails ? J'en ai jamais entendu. J'en ai jamais entendu. Mais c'est d'accord. Tu peux chercher chemtrails, Assemblée nationale, tu les auras. Ah ouais ? Attends, je vais chercher. Il y a une pétition. Il y a une pétition sur le site internet de l'Assemblée nationale qui date d'août dernier contre les chemtrails. Et il y a une question qui m'a l'air d'être une question écrite. Ouais, c'est une question écrite. C'est pas une question au gouvernement. C'est une question écrite qui a été posée en 2012. Qui a obtenu une réponse en 2014. La question a été posée par Gérard Bapt, député de Haute-Garonne, socialiste. Monsieur Gérard Bapt attire l'attention de Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur un certain nombre d'articles parus dans des revues scientifiques spécialisées ayant trait aux mystérieuses traînées dans le ciel, plus connues sous le nom de chemtrails. En effet, officiellement, ces traînées sont considérées comme des traces de condensation laissées par les avions, mais les scientifiques qui ont étudié la question mettent en avant le fait que les traces de condensation sont identifiables à des altitudes élevées de l'ordre de 10 000 mètres et que celles-ci se résorbent rapidement, alors que les chemtrails apparaissent à des altitudes plus basses de 2 000 à 5 000 mètres et s'estompent lentement. Mais c'est quoi cette question? Oh, certains émettent l'hypothèse qu'il s'agirait d'épandage de produits chimiques, provoquant d'ailleurs des maladies respiratoires chez les populations survolées et que les appareils concernés sont des avions militaires sans aucune identification possible, écartant ainsi la piste des appareils civils qui ne seraient donc pas concernés par ces traces. C'est pourquoi ils souhaitent savoir si les études ont été diligentées par le service du ministère permettant d'apporter des réponses précises aux questions légitimement posées. Pardon, pardon, c'est nerveux, mais c'est à chier comme question. J'ai lu un article qui dit que, quand même, est-ce que vous avez enquêté? Ça date de quand? Ça date de 2012. Il y a plus de 10 ans. Et la réponse du gouvernement, je vais vous lire la réponse du gouvernement, parce que le gouvernement a répondu. Le gouvernement est tenu de répondre aux questions qui lui sont posées par écrit ou par les députés, bien entendu, les représentants du peuple, après tout. Réponse publiée en 2014. Attendez, c'est pas une blague. La réponse a été publiée le 1er avril 2014. Dites-moi que vous avez fait exprès, je vous en supplie. Dites-moi, en vrai, c'est drôle. Il y a un fonctionnaire qui s'est marré tout seul dans son bureau en disant, tu sais quoi ? On lui répond le 1er avril. Les traînées blanches visibles dans le ciel après le passage des avions correspondent à une condensation de l'eau de l'atmosphère en cristaux autour des émissions normales de l'avion. En effet, la combustion de kérosène dans les moteurs des avions émet des gaz et des particules, de la suie, des imbrûlés, des poussières, qui sont à l'origine de la condensation observée. Ces particules peuvent servir de noyaux de condensation dans des conditions de très forte humidité de l'atmosphère, de 100 à 130% de saturation, et pour des températures inférieures à moins 30 degrés. En dessous du seuil de 100%, aucune traînée n'apparaît. En revanche, au-dessus de 130%, un nuage se forme. Ce phénomène dépend peu de l'altitude de l'avion, mais bien des conditions atmosphériques et de la météorologie. La taille, la durée et l'étalement des traînées de condensation dépendent également des conditions météorologiques. Elles ne sont donc pas nocives pour la santé. Elles sont, en revanche, une préoccupation du monde aéronautique au regard de l'évaluation de leur contribution à l'effet de serre. De nombreuses études sont menées sur ce sujet au niveau national par l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'ONERA, et au niveau international par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, dont les conclusions quant à cette contribution quantitative ne sont pas encore arrêtées. Voici donc la réponse du gouvernement de la République à un député sur la question des chemtrails en 2014. Non mais c'est bien, hein. Il faut répondre. Donc pas de questions orales, pas de questions au gouvernement à ma connaissance. En revanche, une question écrite effectivement en 2012. Bon. Merci à nos députés de faire remonter nos préoccupations auprès des services concernés pour obtenir des réponses précises. Et la Terre plate. Oh, j'avoue la Terre plate. J'ai lu un article qui disait que la Terre était plate. Est-ce que les services du gouvernement ont enquêté? Hein? C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui cache le fait que les chemtrails sont là pour nous contrôler. Oui, exactement. Les avions militaires. Les avions militaires qui ont que ça à foutre que de cramer du kérosène pour épandre des chemtrails dans le ciel. Pour contrôler les populations ou les rendre malades, j'ai pas bien compris pourquoi. Est-ce qu'on peut espérer une question sur la date du DLC de Silksong? Bah j'espère, encore une fois. On est là pour avoir des réponses de la part du gouvernement. Les gens qui nous gouvernent, doivent apporter des réponses précises aux citoyens français qui s'inquiètent. Si on avait assez d'avions pour faire ça, on serait bien niveau défense. Non mais j'avoue. Vous croyez qu'ils ont que ça à foutre, l'armée de l'air? Que dépendent des trucs? Enfin, vraiment, ils ont du boulot à la gueule, ils ont pas assez de kérosène, pas assez d'avions. Oh. Non, ouais, non, effectivement. Est-ce qu'on peut avoir une question sur l'industrie du jeu vidéo? Oui, on peut avoir une question sur l'industrie du jeu vidéo suite à la victoire du studio qui a fait Clair Obscur et qui a remporté le Game Award et qui est le jeu de l'année. Jeu français, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ouais, ça peut être l'occasion effectivement d'une question. C'est déjà arrivé. Alors là, pour le coup, il y a déjà eu des questions au gouvernement sur le jeu vidéo et sur l'e-sport à l'occasion de victoires françaises dans des compétitions d'e-sport. C'est notamment Denis Masséglia, le député président du groupe d'études sur le jeu vidéo, et par ailleurs passionné d'e-sport, qui vient de déposer une proposition de loi d'ailleurs sur l'e-sport. Denis, je me souviens, je crois que sa première question au gouvernement, c'était sur League of Legends. Enfin, ce n'était pas une question sur League of Legends, mais c'était à l'occasion d'une victoire de je ne sais plus quelle équipe française dans je ne sais plus quelle compétition. Et il avait posé une question au gouvernement sur le soutien de la France aux jeux vidéo et à l'e-sport français. Voilà. La pérennisation du crédit d'impôt jeux vidéo. Non mais c'est bon, il a été pérennisé. Le crédit d'impôt jeux vidéo, il a été pérennisé dans le budget. Alors, on ne sait pas encore si le budget de l'État va être voté. Ça, on ne sait pas encore. Mais le gouvernement a donné un arbitrage favorable sur ce truc-là. Donc, le crédit d'impôt jeux vidéo, à ma connaissance, il est renouvelé, en tout cas pour 2026. On verra ensuite, mais en tout cas pour un an de plus. J'ai une élève qui fait son stage à l'Assemblée, elle va assister au QAG. Oh, que mignon! Les stagiaires! Eh bien, très bien. Eh bien, coucou à ton élève. Quoi, ça n'a pas été voté? Je croyais que le vote était passé. C'était quoi hier? Hier, c'était le budget de la sécurité sociale. Pas le budget de l'État. Le budget de l'État, ça va arriver normalement d'ici au 23 décembre. Et si ce n'est pas le 23 décembre, ce sera en janvier. Mais le budget de l'État n'est pas encore finalisé. Et on est encore dans la procédure de navette parlementaire avec le Sénat. Il y a une CMP qui est prévue vendredi. Merci Polar. Une prédiction pour les QAG. Bah, je te pose la question. Je te pose la question, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les sujets qu'on peut voir abordés à l'occasion de cette séance de questions au gouvernement? Sachant qu'hier, il y a déjà eu des questions au gouvernement qui ont été posées par tous les groupes sur la question des agriculteurs. Ça n'empêche pas les groupes de revenir dessus le lendemain, il n'y a pas de souci, mais a priori, ils peuvent vouloir aussi aborder d'autres sujets. Il y a la question du piratage du ministère de l'Intérieur par des pirates informatiques qui, visiblement, ont volé des données de police, des fichiers de police, qui menacent de les rendre publics. Si la France ne paye pas une rançon, de ce que j'ai compris, on est à ce niveau-là. Merci, Caporal Fantôme. La grève du Louvre, la grève du Louvre, intéressant. La grève du Louvre, est-ce que ça mérite une question au gouvernement? Je ne sais pas, pour poser la question plus globalement de la situation de la culture. Mais ouais, peut-être. Une question sur le terrorisme en lien avec l'attentat en Australie. Ouais, on en parlait hier. Oui, c'est possible. C'est possible qu'à l'occasion de l'attentat antisémite qui a eu lieu à Sydney, un député français pose une question au gouvernement sur les moyens de la lutte contre le terrorisme. Oui, c'est possible. La suppression de l'objectif 2035 du 100% électrique en Europe. Ouais, l'Union européenne a acté un recul par rapport à ses ambitions écologiques. Et l'interdiction de la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035 va être repoussée. Alors, c'est repoussé à quand? Vous avez la date ou pas? C'est 2040, 2045? C'est quoi? C'est que... Le but de ce recul écologique est de soutenir la filière industrielle européenne pour laisser le temps à nos constructeurs automobiles de faire leur mutation vers l'électrique. Journaliste, police, justice ici, je ne sais pas si tout le monde se rend compte de la gravité exceptionnelle que constitue la fuite du TAJ et du FPR. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Alors, je sais que ce n'est pas facile dans un chat Twitch, mais tu t'y connais mieux que moi. Quels sont ces deux fichiers de police qui ont fuité suite à un piratage par des pirates informatiques? Qu'est-ce qu'ils représentent? Quelle est leur dangerosité? N'hésite pas à nous éclairer, parce que moi j'ai lu ça aussi un peu en diagonale en lisant des articles et tout. J'avoue que j'ai pas très bien compris les fichiers en question qui ont fuité, ce qu'ils comprennent, et voilà. Laisser le temps, ça me fait toujours rire. Depuis combien de temps ils savent déjà, ils ont eu le temps? Non, ils n'ont pas eu le temps, parce que c'est les accords de Paris qui ont impliqué ces mutations sur le modèle électrique de l'ensemble des voitures neuves. Le problème, c'est que l'industrie européenne automobile, elle est sous pression, très très forte pression, notamment pression sur les prix de la part des Chinois, qui eux s'en donnent à cœur joie et vendent des bagnoles BYD à la pelle en Europe. Le TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires. Il recense tous les antécédents des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de police ou de gendarmerie en qualité de victime ou d'auteur présumé. Le FPR, c'est le fichier des personnes recherchées. Pas besoin d'en dire plus. Non, effectivement, j'ai compris. D'accord, merci. Donc, c'est le traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées qui auraient fuité. Le TAJ y contient l'identité des informations sur l'ensemble des mises en cause ou des victimes ou des témoins d'une enquête de police. 16 millions de personnes dans le fichier. Bah ouais, putain, c'est vrai que si tu comprends les auteurs, les victimes, les témoins, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, machin, c'est un énorme fichier, oui. Et le FPR, c'est les personnes recherchées qui doivent naturellement pas savoir qu'elles s'y trouvent. Ah, le FPR, c'est les personnes recherchées, y compris des gens qui savent pas qu'ils sont recherchés? Je m'étais jamais posé la question, mais quand t'es recherché, tu le sais ou... Je sais pas. Oui, il y a les 5 étoiles qui s'activent. C'est sur ton HUD. La fuite, elle est publique ou c'est des individus qui ont récupéré les données pour eux? Pour l'instant, de ce que j'ai compris, ce sont des individus qui ont récupéré les données pour eux, qui demandent à la France d'entrer en contact avec eux en vue de, on suppose, discuter d'une rançon. Et ils menacent de rendre public, si la rançon n'est pas versée, de rendre public le contenu de ces fichiers. Mais non, c'est effectivement une très très mauvaise nouvelle. C'est effectivement une très très mauvaise nouvelle, la fuite de ces fichiers, et si jamais ils sont rendus publics, par exemple le TAJ, moi je pense aux victimes. Je pense aux victimes. Les auteurs, à la limite, je m'en fous un peu, mais les victimes, dont tout le monde va avoir accès aux informations sur le fait qu'elles ont été victimes, de quoi, vous imaginez les victimes de viol, les victimes de harcèlement, c'est terrifiant. Et les témoins, ça peut être super dangereux dans le cadre des enquêtes de trafic de drogue, par exemple, de narcotrafic. Imaginez. C'est très, très dangereux physiquement pour plein de gens. Typiquement, j'ai porté plainte une fois pour agression, mes données sont dedans. Ouais, moi aussi, je me suis fait voler un téléphone portable il y a 15 ans, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, je dois être dedans aussi. Enfin, moi, ça va, c'est pas très grave. Bon, voilà. Je me suis fait tirer un téléphone, quoi. Mais je pense aux victimes, quoi. La fameuse Sonia des attentats de Paris. Ouais, la fameuse Sonia des attentats de Paris, bien sûr. Est-ce qu'il y a une date limite pour garder les informations personnelles? Je sais pas. Là, je t'avoue, je ne connais pas la législation en matière de droit à l'oubli dans les fichiers de police, combien de temps tu restes. Pour des raisons de sécurité, tu peux y rester très longtemps, je suppose. Ça me paraît assez évident, notamment les personnes suspectées, les personnes dangereuses, pour plein de très bonnes raisons. La police a besoin de pouvoir travailler. Mais effectivement, un mec comme moi qui s'est fait tirer son portable il y a 15 ans, est-ce que j'ai vraiment besoin de rester encore aujourd'hui dans le fichier? Pas sûr. D'ailleurs, est-ce que la RGPD s'applique à ces fichiers? Je ne sais pas, la RGPD s'applique à le RGPD. Non, la RGPD, tu as raison, pardon, s'applique à tous les, à tout le monde. Je ne connais pas en détail la RGPD, mais je suppose qu'il y a des réglementations spécifiques pour les services de l'État et notamment les services de sécurité. Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur doit déclarer à la CNIL ses fichiers. J'en sais rien, peut-être. C'est le RGPD règlement. Alors moi j'avais compris que c'était la réglementation au féminin, la réglementation générale de la protection des données, ou relative à la protection des données, je ne sais plus. Peut-être que je me trompe, mais j'avais gardé ça en tête. Le RGPD s'applique à ces fichiers. Oui, il y a des modifs légitimes prévus pour ce genre de cas. Des modifs légitimes, ouais, c'est ça. Ok. Non, non, bah merci pour tes éclaircissements. Effectivement, je ne me rendais pas compte de la gravité des fichiers en question qui ont fuité. Alors, est-ce qu'ils ont fuité en totalité ou en partie? Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'on aura plus d'informations cet après-midi. Peut-être qu'on aura une question au gouvernement, hein, sur ce sujet. Le ministre de l'Intérieur serait bien inspiré d'apporter des réponses précises. Je sais qu'une enquête a été ouverte, donc on est encore en train de. Enfin, quand je dis on, les services concernés et compétents sont en train de travailler pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais de premiers éléments pourraient être intéressants à connaître vite. Pouvez me lire dans Street Press, autopromo. Tu t'écris dans Street Press? C'est trop bien. D'ailleurs, soutenez Street Press, les copains. Soutenez Street Press. En ce moment, Street Press, ils font l'objet de plaintes qui ont été déposées par l'extrême droite contre eux. C'est des procédures bâillons. C'est des procédures bâillons pour faire taire Street Press. Ils ont besoin d'aide. Soutenez les copains. Soutenez le travail de Street Press. Kezako, Street Press est un média en ligne. Street Press est un média en ligne qui fait tout un travail de documentation et de journalisme de très grande qualité sur comment on peut le dire déjà contre l'extrême droite, d'une part, sur les questions de la police, d'autre part, et du maintien de l'ordre, et sur les cultures urbaines, sur enfin, c'est assez ancien Street Press pour le coup. Ça fait partie des premiers pure players comme on disait à l'époque. Et ils font du très bon boulot, Street Press. Une procédure bâillon, ça peut pas rebondir sur ceux qui attaquent? Non, parce que... Enfin non, si, c'est, en fait, il y a un délit... En France, il y a un délit qui est le délit... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le délit de procédure excessive en justice. Quelqu'un qui s'amuse à spammer la justice avec des plaintes, avec des recours, etc., dans le seul but de casser les couilles, dans le seul but d'emmerder un adversaire, etc., peut être condamné. Procédure abusive, voilà, merci. Procédure abusive. Peut être condamné par la justice pour procédure abusive. Le truc, c'est que ce délit, pour être constitué, il faut déjà que les actions en justice aient été menées, en fait. Donc c'est un peu plus tard. C'est après coup qu'éventuellement tu peux gagner en justice contre le mec qui t'a harcelé en justice. Le problème, c'est que c'est trop tard, il t'a harcelé. Et il t'a fait perdre beaucoup d'argent en frais de justice, avocat, etc. Donc c'est ça qu'on appelle une procédure bâillon. Procédure bâillon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, un chef d'entreprise, un capitaine d'industrie, qui veut faire taire un journal et qui va multiplier les recours contre ce journal, en sachant très bien qu'il va les perdre. Mais il s'en fout. Lui, son but, c'est de faire perdre de l'argent au journal en frais de justice. C'est ça une procédure bâillon. Essayer de le bâillonner en disant, voilà, on va te tuer, on va tuer ton journal. C'était le cas avec Fakir à l'époque, avec Bernard Arnault. Même pas les perdre, elles vont être annulées et nullifiées. Oui, ça c'est possible, mais ça t'en sais rien. De toutes les façons, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est trop tard, t'as réussi à faire du mal. Si tu déposes une plainte contre moi, je vais être obligé d'aller chercher un avocat. Je vais commencer à travailler avec cet avocat, je vais le payer. Et puis si on apprend 7 mois plus tard que la plainte est retirée, ben c'est trop tard, j'ai payé mon avocat. Enfin, c'est trop tard dans le sens où, tant mieux pour moi, j'ai pas été condamné en justice. Par contre, j'ai quand même perdu tout le pognon. Donc c'est. Voilà. Même en cas de condamnation pour procédure abusive, ça ne rembourse jamais la totalité des frais et du temps engagés dans la procédure. Non, non, bien sûr. Non, puis tu as raison, on parle de l'argent, donc les frais d'avocat, les frais de justice, etc. On ne parle pas du temps et de l'énergie que ça te demande, en fait. Ça te bouffe un procès, enfin une plainte, etc. Ça te prend du temps, ça te prend la tête, ça te. Ouais. Donc c'est ça ce qu'on appelle une procédure bâillon. Enfin, on parle de procédure bâillon pour désigner spécifiquement les attaques contre des médias. On essaye de bâillonner un média en le faisant crouler sous les procédures judiciaires. Bref, 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 bref. Soutenez Street Press. Voilà, c'était ça la morale de l'histoire. Soutenez Street Press. Soutenez Street Press. Et revenons à notre séance de questions d'actualité au gouvernement. La question du piratage du ministère de l'Intérieur, à mon avis, pourrait faire l'objet d'une question au gouvernement assez intéressante. On verra. La dermatose nodulaire sur les vaches peut faire l'objet d'une question au gouvernement, mais bon, on en a déjà beaucoup parlé hier, alors je ne sais pas trop. L'adoption du PLFSS et la direction prise par le PLF, ça peut faire l'objet d'une question, pourquoi pas. Le ministère de l'Intérieur a subi un vol de données dans la même semaine que France Travail. Ouais. Un petit coup sur l'Ukraine, peut-être. Ouais, un petit coup sur l'Ukraine. Un petit coup sur l'Ukraine. Où est-ce qu'on en est des discussions et des négociations sur un accord de paix? Ça peut être intéressant, effectivement, de faire un point d'étape. Pourquoi pas? Est-ce que les ministres ont la liste des questions avant la séance ou ils la découvrent pendant la séance? Alors, les ministres ont la liste des orateurs inscrits. Donc, on sait qui va poser des questions. Ça, c'est pas un mystère. Ensuite, pour ce qui est du sujet des questions, soit le député donne le sujet de sa question au gouvernement avant la séance, par exemple si c'est un député qui soutient le gouvernement, c'est logique, parce qu'il n'essaye pas de le piéger, il n'est pas dans l'opposition, il est plutôt copain avec le ministre, donc il est là pour lui filer un coup de main. Soit le député préfère garder le sujet de sa question secrète. Auquel cas, le ministre peut quand même deviner le sujet de la question. Par exemple, parce qu'il connaît le député qui va poser la question, il sait où le député a été élu. Oh, comme par hasard, dans sa circonscription, il y a une fermeture d'usine. Donc, évidemment, le ministre de l'Industrie a préparé une fiche pour répondre au cas où ça tombe sur ce sujet-là, parce qu'il a anticipé le coup. Voilà comment ça marche. Qu'est-ce qui empêche la ministre de garder le silence pendant son temps de réponse ? Comment te dire ? Il faut bien que vous gardiez en tête la hiérarchie de pouvoir qu'il y a dans cette séance de questions au gouvernement et d'une manière générale dans la Ve République et dans toutes les démocraties parlementaires de la planète. Le patron, c'est l'Assemblée. L'employé, c'est le gouvernement. Elle est comme ça, la hiérarchie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le gouvernement, il est en bas, au banc des ministres, en bas. Le gouvernement est en dessous de l'Assemblée nationale. Le gouvernement, il vient pas pour le plaisir. Il vient parce qu'il a pas le choix. En démocratie parlementaire, le gouvernement rend des comptes aux représentants du peuple. Donc les ministres, ils viennent aux séances de questions au gouvernement dans un état d'esprit de... comment dire... d'entretien d'évaluation. Il va rendre des comptes à son patron, en fait. Il va expliquer aux députés représentants du peuple ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait, comment il répond à la crise, le machin, le truc et tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc est-ce qu'un ministre peut garder le silence ? Pas vraiment, en fait. Est-ce qu'il... il n'y a pas intérêt. Il n'y a vraiment pas intérêt. Il a intérêt à broder, il a intérêt à être bon, il a intérêt à s'expliquer. Que la réponse plaise aux députés ou pas, c'est pas le sujet, mais merci Manu Biwan. Et puis par ailleurs, gardez aussi en tête que les ministres, comme les députés, sont des hommes et des femmes politiques, sont des hommes et des femmes qui se battent pour des convictions, pour de l'action publique, et qu'ils sont ravis de saisir un micro qui leur est tendu pour défendre leur action. Un ministre, tu lui donnes 2 minutes de temps de parole à l'Assemblée nationale pour défendre son action, il est ravi. Et t'inquiète qu'il va le prendre le micro, puis il va parler dedans. Parce qu'il a des choses à dire. Il va mettre en avant son travail. Voilà ce qu'on fait. Alors ça plaît pas à l'opposition, c'est normal, c'est l'opposition. Puis ça déclenche des applaudissements sur les bancs de la majorité. C'est normal, c'est la majorité, mais c'est comme ça. Ainsi va la démocratie. On peut dire qu'il va consulter les personnes concernées et donner rendez-vous aux députés en off pour répondre après si ça se fait souvent. Oui, bien sûr, alors ça c'est déjà arrivé, effectivement. Par exemple, un député pose à un ministre une question ultra précise sur un dossier ultra précis que, objectivement, le ministre, il en a vaguement entendu parler, mais il n'a pas beaucoup d'éléments. Auquel cas, c'est pas grave, le ministre va répondre au député, monsieur le député, je ne suis pas tout à fait au fait du dossier que vous soulevez, c'est un dossier important et je vous rejoins. Je vous propose que nous prenions attache et que nous nous rencontrions dans les prochaines semaines pour faire un point ensemble. Mes services vont revenir vers vous, on va vous apporter une réponse. Et puis comme il reste 1 minute 30 de temps de parole, le ministre va en profiter, puisqu'il lui reste 1 minute 30 rien que pour lui, il va dire, ben voilà. Et puisque vous me saisissez, monsieur le député, sur cette question, j'en profite pour vous dire que l'action du gouvernement en la matière est une action résolue, nous allons dans la bonne direction, nous avons pris telle décision, bref, il va défendre l'action du gouvernement, il va t'expliquer, il est content, il est ministre, il est fier de ce qu'il fait, donc il va défendre le truc. Tout en disant, en étant très sincère, en disant, je suis désolé sur le sujet précis que vous me demandez, je sais pas, là, tout de suite, j'ai pas les éléments. Mais on va les trouver, on va revenir vers vous, et voilà. Mais dites-vous bien que les ministres, ils tombent rarement des nues sur les questions qu'on leur pose. La ministre, c'est un cas caricatural, mais la ministre de l'Agriculture, en ce moment, c'est la femme la mieux informée sur la dermatose nodulaire. Il n'y a personne en France qui sait mieux qu'elle, elle a tous les rapports, elle est au téléphone toute la journée avec des gens tout le temps, elle fait des réunions, elle fait des points, elle a des rendez-vous, elle bosse dessus H24, elle dort 4 heures par nuit, t'inquiète, elle sait. Elle a les infos, etc. Machin. Donc, Elle ne peut pas être prise au dépourvu sur ce sujet-là. Elle a des choses à dire. Après, on peut critiquer son action. Je ne dis pas l'inverse. Ce n'est pas une question de compétence ou de... Mais elle est parfaitement. Et ce qui est valable pour la ministre de la... Ce qui est valable pour la ministre de la Transition... pour la ministre de la... de l'Agriculture est valable pour tous les autres ministres. Le ministre de l'Éducation nationale, il a une dizaine de dossiers un peu chauds en ce moment. Il les connaît. Il les connaît. Il a fait des réunions, des rendez-vous. Il a pris des décisions. Il a publié des circulaires. Il connaît. Voilà. Donc, si on le prend sur un de ces sujets, t'inquiète, il les a en tête. Il peut répondre sans fiche. C'est mieux quand même d'avoir une fiche pour avoir les bons chiffres, pour pas dire de conneries, c'est mieux. Mais il connaît. Voilà. Il découvre pas le sujet à l'Assemblée. Genre, ah bon, il y a un problème, ouais, je savais pas. C'est très bien. Typiquement, le ministre de l'Intérieur, il connaît parfaitement la cybersécurité dans ses services maintenant. Ah bah alors là, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à mon avis, ça fait effectivement 3 jours qu'il dort pas, d'une part, et d'autre part, ça fait 3 jours qu'il enchaîne les réunions avec tout ce que la France compte de spécialistes des questions de cybersécurité, de ministère de l'Intérieur, de fichiers de police, de machin. Là, il est dans le dossier, là. Là, il est dedans. Là, en ce moment, il est dedans. Ouais. D'autant que le ministre de l'Intérieur est un ancien de la DGSI. Il est même l'ancien DGSI. Laurent Nunez, il a été directeur général de la Sécurité Intérieure. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'un des plus hauts postes. Bah, d'ailleurs, non, c'est le plus haut poste de fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. C'est le directeur général de la Sécurité Intérieure du pays France. C'est un fonctionnaire, c'était pas un politique, il est devenu, mais à l'époque, c'était pas un politique, c'est un haut fonctionnaire de la hiérarchie policière. Il est au-dessus du DGPN, il est au-dessus machin, il coordonne l'action en lien avec le secrétariat général du gouvernement en charge de la sécurité, de la défense nationale, etc. Enfin, effectivement, Laurent Nunez, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet, il connaît très 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 bien le ministère de l'Intérieur. Il y a fait toute sa carrière. Ce qui ne doit pas nous empêcher de critiquer son action ou son inaction. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la politique. C'est secondaire. Donc voilà, donc pas de surprise, enfin pas de surprise, rarement des surprises à l'Assemblée nationale, rarement des surprises de la part des ministres qui sont quand même assez bien au fait de leurs ministères respectifs, donc ils connaissent quand même franchement bien les dossiers, ça leur permet d'apporter des réponses. Je vous rappelle que 2 minutes de réponse, c'est très court. 2 minutes de réponse, c'est très très court. En 2 minutes, bah, vous connaissez les séances de QAG, on a le temps de brosser rapidement le sujet... en affirmant 3-4 trucs sur l'action du gouvernement, voilà, mais pas beaucoup plus. On n'est pas comme dans une commission où il y a une audition du ministre, où là, ça dure beaucoup plus longtemps, les réponses sont beaucoup plus longues. Et bah, vous avez vu la commission d'enquête avec Jean-Luc Mélenchon. C'est un exemple de commission d'enquête. Vous voyez le rythme, c'est très lent. Ça dure 4 heures. Voilà, bon. D'ailleurs, merci Coolcat. Merci Coolcat. Je n'ai pas regardé sur les ordres du jour de l'Assemblée, mais je suis persuadé que la ministre de l'Agriculture va être auditionnée par la commission de l'Agriculture de l'Assemblée nationale. Merci Paolo. Sur le sujet de la dermatose nodulaire. Et là, ce ne sera pas 2 minutes de questions, 2 minutes de réponses. Là, ce sera la ministre pendant 4 heures, devant tout ce que le pays compte de députés les mieux informés sur le sujet de l'agriculture, dont un paquet sont agriculteurs eux-mêmes, et il va falloir qu'elle apporte des réponses. Là, elle va avoir du temps pour parler. Donc voilà, les séances de questions au gouvernement ne sont pas l'alpha et l'oméga du contrôle de l'action du gouvernement. C'est une séance, enfin c'est 2 séances par semaine, qui sont des séances courtes, avec des questions courtes, des réponses courtes, pour aller un peu vite. Et on assume d'aller un peu vite, tout en se disant que si on a besoin d'approfondir, on approfondira en audition, en commission. Il y a quoi comme différentes commissions à l'Assemblée nationale ? Alors, il y en a 8 de mémoire. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Commission des affaires économiques. Commission des affaires étrangères. Commission des affaires sociales. Commission de la défense nationale et des forces armées. Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Commission des finances. et commission des lois. Voilà la liste des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Permanentes, ça veut dire qu'elles sont instituées, elles siègent tout le temps, toute l'année, et elles se saisissent des dossiers de propositions de loi, projets de loi qui les concernent, etc. Par ailleurs, il est possible de créer des commissions, ad hoc, qui vont être des commissions temporaires, qui vont travailler pendant 3 mois sur un sujet précis, par exemple une commission d'enquête. Alors, ce n'est pas nécessairement une commission ad hoc, une commission d'enquête, ça peut être une commission permanente qui se donne les pouvoirs de commission d'enquête. Mais on peut aussi créer une commission d'enquête ad hoc, nouvelle, qui va bosser pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, elle sera dissoute. Donc voilà. Merci Marie-Lyonne. Est-ce qu'on a parlé de dissolution ? On n'a pas encore parlé de dissolution. Mais faites comme Marie-Lyonne et abonnez-vous, parce qu'on va en parler de dissolution dans les semaines qui viennent. Si le budget de l'État est rejeté, et à mon avis, il va être rejeté. Les écolos ont dit qu'ils voteraient contre, les socialistes ont dit qu'ils ne voteraient pas pour. On ne sait pas encore s'ils vont voter contre ou s'ils vont s'abstenir, ça on verra. On verra. Le PLFSS n'a pas été voté ? Si, le PLFSS a été voté hier. Le PLFSS, c'est le budget de l'État. Non, pardon. Le PLFSS, c'est le budget de la Sécurité sociale. Le deuxième texte que l'on vote chaque année, c'est le budget de l'État, qu'on appelle le PLF, projet de loi de finances. C'est pas la même chose. Il y a deux textes budgétaires en France, le budget de l'État et le budget de la Sécu. Et les deux sont examinés en parallèle. Là, il y en a un des deux qui a été adopté. Et le deuxième est encore en cours de négociation avec le Sénat. Il y a une CMP vendredi de négociation entre les députés et les sénateurs. Et la date butoir pour le voter, c'est le 23 décembre. S'abstenir de voter, c'est un peu voter pour. Non, s'abstenir, c'est s'abstenir. C'est ne pas faire obstacle à l'adoption, mais ne pas y participer. Ce serait très drôle que la traditionnelle allocution de Macron de fin d'année soit l'occasion d'une annonce de dissolution. Française, français. Joyeux Noël. Par ailleurs, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Allez, je vais lever ma coupe. Je vais lever ma coupe de champagne. Je vais faire, allez, c'est reparti. Hop là. Ah putain. Ça serait drôle. Ouais, ça serait drôle. Si dissolution, est-ce que les municipales sont reportées ? Ça paraît chaud. En vrai, j'en sais rien. En termes de calendrier, je ne suis pas sûr que les services de l'État soient en mesure d'organiser 2 élections d'affilée. On ne peut pas faire les 2 élections en même temps, je le dis tout de suite. Je pense effectivement que si on fait une dissolution en janvier, ça veut dire qu'on fait des élections législatives en février, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de municipales en mars, ça veut dire qu'on décale les municipales à septembre, ça veut dire qu'on décale les sénatoriales à décembre. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Ce serait la deuxième fois que les élections municipales seraient déplacées. Ouais, mais la première fois, c'était pour cause de Covid. On avait repoussé le second tour de l'élection. Donc, je sais pas. Ça, effectivement, le calendrier me paraît très tendu. J'ai pas le détail, il faut voir. Je sais pas s'il y a des constitutionnalistes qui sont penchés sur le sujet et qui ont écrit des notes. Mais je serais curieux quand même de savoir un peu les arguments pour voir si juridiquement c'est faisable de faire une dissolution en janvier-février. On reparle des législatives, je viens d'arriver, désolé, c'est une possibilité à nouveau. Non, 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 personne n'en a parlé, personne n'en a parlé. Là, on est en train de faire un exercice intellectuel de réflexion sur est-ce que ce serait envisageable. C'est pas au menu. Personne n'a parlé de dissolution. À part les gens qui souhaitent la dissolution comme d'habitude, mais ils en parlent tout le temps. Donc non, non, a priori, enfin, en l'état actuel des choses, virgule, Emmanuel Macron évacue l'idée même de dissolution. Il l'a dit en septembre, je ne dissolverai plus. Terminé, c'est bon, j'ai déjà fait, je m'en suis mordu les doigts. Je ne vais pas rejouer à ce jeu-là. Je ne dissoudrai plus. Merci Nado314. Donc, Macron n'a pas envie de dissoudre, d'accord? Mais, comme le lui a fait remarquer le facétieux streamer Jean Massier, qu'est-ce qui se passe si tu es forcé de dissoudre? Par exemple, si l'Assemblée nationale censure le gouvernement. Par exemple, si l'Assemblée nationale est incapable d'adopter un budget. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où Emmanuel Macron peut se retrouver dans une situation dans laquelle il est contraint de dissoudre? À regret. Mais c'est comme ça. Est-ce que le cornu, il est parti pour rester du coup? Le cornu, depuis septembre dernier, nous explique qu'il est en mission pour doter la France d'un budget. Est-ce que ça veut dire qu'en cas de rejet du budget, il démissionne? Sans doute. Ce serait cohérent. Mais est-ce que ça veut dire qu'en cas de vote du budget, il reste? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je crois avoir entendu que le cornu en avait ras-le-bol et qu'il n'en pouvait plus. Qu'il n'avait pas envie de continuer. Mais en même temps, il a dit lui-même qu'il était un moine soldat. Merci, Jules Butte. Il a dit lui-même qu'il était un moine soldat. Donc peut-être qu'il va rester au gouvernement. Et continuer à servir la France le temps qu'il réussit à faire adopter des budgets. Je sais pas. C'est une bonne question. Après, vous savez, on en reparlera. Hein. On en reparlera parce que je serais curieux d'avoir votre point de vue là-dessus le moment venu. Mais il y a un monde où, si le cornu réussit à faire adopter son budget, ce à quoi je ne crois pas, mais admettons qu'il y arrive. Bah, il y a moyen qu'il ait une bonne cote de popularité. Hein. Il y a moyen qu'il devienne un bonhomme un peu incontournable où les Français se disent, dans le marasme politique incompréhensible, ce mec-là tient la barre, c'est bien, enfin, bon. Il a réussi à faire adopter un budget 149.3, etc. Machin. C'est peut-être des réflexions qu'on va entendre, j'en sais rien. Merci, Taker. Alors, de là à parler d'une candidature en 2027, c'est peut-être encore un peu précipité, j'en sais rien. Mais au moins d'une capacité de Lecornu à rester Premier ministre d'un gouvernement minoritaire de janvier à juin jusqu'à la fin de la session parlementaire, c'est déjà pas mal. Moi, je vais être très honnête avec vous, si Lecornu réussit à faire adopter son budget, je serais très impressionné. Après quel prix ça aura coûté, ça c'est un autre enjeu, mais putain, rappelez-vous, vous étiez sur ma chaîne en septembre dernier, je donnais pas très très cher de la peau de Lecornu. Hein. Moi j'ai toujours été très sceptique hein, sur la capacité de Lecornu à faire adopter un budget. Bon, il a réussi à faire adopter un budget de la Sécu. Déjà pas mal. Est-ce qu'il va réussir à faire adopter un budget de l'État? Encore une fois, non mais encore une fois, je suis pessimiste. Je crois pas. J'ai du mal à voir dans quel monde c'est voté. Mais bon, il a déjà réussi à me surprendre une première fois. Si on nous avait dit que des députés dits de gauche voteraient un budget de la Macronie, c'est pas vraiment un budget de la Macronie, hein, vu à quel point il a été modifié, amendé et dealé, c'est dur de dire que ce budget, c'est celui des macronistes. Le budget qui a été voté, pas le budget qui a été présenté. Déjà, le PLFSS, c'était à 7 voix. Et ça faisait bien plus consensus que le budget. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, non, mais t'as raison. Clairement. Clairement. C'est une des raisons pour lesquelles je doute beaucoup. Mais. Pourquoi le Cornu a réussi à faire passer un PLFSS 149.3 alors que Barnier et Bayrou non? Mais parce que précisément la méthode du 49.3 a montré ses limites à ce moment-là. C'est-à-dire que je rappelle que Michel Barnier s'est pété la gueule sur un 49.3. Que François Bayrou n'a réussi à faire adopter un budget par 49.3 qu'à la faveur de l'abstention des socialistes de voter la censure. De la même manière, Sébastien Lecornu n'a réussi à faire adopter un projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'à la faveur d'un vote favorable des socialistes. Donc, il a. Et puis par ailleurs, rien n'est gratuit. Et ça, je me souviens qu'on en avait parlé, vous et moi. Rien n'est gratuit. Sébastien Lecornu a gagné avec le Parti socialiste ce qu'il a perdu avec les Républicains. Alors, les Républicains n'ont pas voté contre le budget de la Sécu. Ils sont abstenus. Merci, Chani. Ce qui était le maximum que pouvait attendre Lecornu de la part des Républicains. Vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne pouvez pas voter ce budget, les Républicains. Il est bien trop à gauche, ce budget de la sécurité sociale, pour les Républicains. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, vous l'avez entendu sur ma chaîne. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, bon, il a obtenu le vote des socialistes, il a perdu les républicains, mais il conserve quand même 6 ministres issus des républicains qui ont été éjectés du parti, mais pas vraiment. Bref, la situation est très complexe, quoi. Ce sera pas la même pour le budget. Bah, je suis d'accord avec toi. Non, non, mais vraiment, je suis d'accord avec toi. Putain, est-ce que les républicains vont voter le budget? Je pense pas. Les socialistes, non. Après, ils vont peut-être s'abstenir. Les verts vont voter contre. Qui nous reste? Il n'y a aucun monde où ça passe. Hein. Je suis désolé, mais il n'y a aucun monde où ça passe. Enfin, je. Avec un 49.3. Sébastien Lecornu a évacué l'idée d'utiliser le 49.3. Je vais même aller plus loin que ça. Sébastien Lecornu a construit toute sa stratégie depuis 3 mois sur le fait qu'il n'aurait pas recours à la fin au 49.3. C'est toute sa strate. C'est d'ailleurs l'abandon du 49.3 qui est utilisé comme un élément de négociation avec les députés. Pour dire aux députés, c'est votre budget, c'est vous qui négociez, qui le discutez, qui l'amendez. À la fin, on essaye de se mettre d'accord, mais c'est votre budget. Si Lecornu change d'avis et a recours au 49-3, c'est un aveu d'échec terrible pour Lecornu, sur sa méthode, sur son travail. Et à mon avis, s'il a recours au 49.3, il risque d'être censuré. J'ai bien dit, il risque. Jamais le 43 passe, jamais le 49.3 passe, censure automatique par toute la gauche en mode trahison, plus le RN, donc ciao. Bah, c'est un peu Barnier, quoi. C'est un peu Barnier. Mais... est-ce que l'abstention des socialistes à elle seule... Ouais, bah ouais, ce serait un peu comme Bayrou. Merci, Mérisier. Ce serait un peu comme à l'époque de Bayrou, c'est-à-dire que les socialistes pourraient décider de toper avec le cornu une abstention de voter la censure en échange de quelque chose. Alors le quelque chose, soit il se trouve dans le budget, ce serait quand même assez idéal, mais je sais pas. Sauf que le PS réclame le 49.3. Non, pas du tout. Le PS ne réclame pas le 49.3. C'est François Hollande qui a déclaré dans une interview... François Hollande, c'est pas le PS, hein, il est isolé au sein du Parti Socialiste, qui a déclaré dans une interview qu'il était dommage de se passer d'un outil comme le 49.3. Et ensuite, on a eu, comment il s'appelle, Boris Vallaud, président du groupe, qui, il avait dit quoi déjà sur le 49.3 ? Il avait dit qu'il ne le souhaitait pas, et que c'était pas la bonne méthode de construction du budget. Est-ce que les Verts ont détérioré leur relation avec LFI en choisissant l'abstention ? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je vois mal le PS s'abstenir sur une censure après un 49.3 de Le Cornu, qui lui-même a revendiqué depuis le début un changement de méthode sans jamais utiliser le 49.3. Bah justement, s'il change de méthode, ça change la donne. Ça change carrément la donne. Je sais pas, je réfléchis. On peut être surpris. On peut être surpris par beaucoup de choses. En tout cas, le PS a dit aujourd'hui ou hier que ils ne peuvent pas voter pour le budget. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter contre, ils peuvent s'abstenir, c'est aussi une solution. Mais en l'état actuel, ils évacuent l'hypothèse d'un vote pour le budget. Quelle est la stratégie politique des députés de voter pour le PLFSS mais contre le budget de l'État ? C'est parce que c'est deux budgets très différents. L'un, c'est pour la sécurité sociale, c'est pour la maladie, la retraite, etc. L'autre, c'est l'ensemble des politiques de l'État, y compris l'éducation, y compris la sécurité, l'immigration. C'est plus engageant, le budget de l'État, que le budget de la Sécu, surtout quand t'es de gauche et que le budget de la Sécu, t'as plutôt envie qu'il existe, plutôt qu'il n'existe pas. Pour les assurés sociaux, quoi. Mais... elle en avait parlé, Cyrielle Chatelain, sur le plateau de Baxit, de ça. De la différence entre le PLF et le PLFSS. En disant, c'est pas la même chose, c'est pas la même poésie, c'est pas la même musique, on parle pas de la même chose. Autant on est capable de s'abstenir sur un budget de la sécurité sociale, autant un budget de l'État, on vote contre. Le PS a déjà avalé pas mal de couleuvres sur ce PLFSS. Ils vont avoir du mal à voter pour sans grosse victoire. Bah ouais, d'autant qu'ils n'ont pas obtenu la victoire de la taxe Zucman. À mon avis, s'il y avait la taxe Zucman dans la copie, le PS aurait pu voter pour. Mais pour le coup, c'est très symbolique la taxe Zucman, mais ça marche bien. Enfin, plus que symbolique, c'est totémique. Merci Creatix. Si le PLF n'est pas voté, ça ne remet pas en cause le PLFSS ? Non, ça ne remet pas en cause le PLFSS. Ça peut remettre en cause certains budgets de transfert qui ont été décidés dans le PLFSS. Parce qu'évidemment, du financement qui vient de l'État. de la part de... Mais bon, une loi spéciale peut permettre de passer outre ça et de quand même financer la Sécu. Merci Atlonto. Merci beaucoup. Quelle heure il est ? Il est 14h, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, allez chercher une bière dans le frigo, nous allons assister ensemble à la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. 11 questions vont être posées au gouvernement par les différents groupes de l'Assemblée nationale, une question par groupe, et le gouvernement va répondre, et ensuite on va débriefer. Voilà. En gros, c'est ça le programme. Un budget déficitaire, ça pose pas de problème à aucun député, surtout avec la nouvelle cotation de la dette française. Oh, tu sais, ça fait 50 ans que ça pose de problème à personne d'avoir un budget en déficit. Non, en plus, c'est pas vrai. Il y a plein de députés à qui ça pose un énorme problème. Je sais pas si tu te souviens d'un mec qui s'appelle François Bayrou, qui a quand même passé tout son été et son mois de septembre à nous beurrer le mou sur tous les plateaux télé possibles et imaginables sur la dette et les déficits. Voilà. Donc si, je te rassure. Le gouvernement essaye de maintenir une enveloppe de déficit, mais n'y arrive pas, à cause des négociations avec les députés, alors que... Il est souffrant, le pauvre Bayrou. Ouais, Bayrou, il est à l'hôpital à cause d'une grippe. Alors que la séance commence et que François Bayrou nous regarde depuis sa chambre d'hôpital, nous accueillons la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui monte au perchoir pour aller présider la séance des questions d'actualité au gouvernement en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier.
Bonjour à tous, la séance est ouverte.
Merci.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement.
Tout à fait.
Et la première va être posée par monsieur Mickaël Taverne pour le Rassemblement national.
Mickaël Taverne va poser la première question.
Merci madame la présidente, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. L'Union européenne a exempté 6 États membres du
député du Nord
de relocalisation des migrants. Il s'agit de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de l'Autriche et de la Pologne. Ce mécanisme qui vise à relocaliser 30 000 demandeurs d'asile tous les ans en Europe ne s'appliquera donc pas à ces pays qui sont, je cite, confrontés à une situation migratoire importante. Ils peuvent donc demander une déduction totale ou partielle de leur contribution de solidarité. Mais ce n'est pas tout. Chypre, l'Espagne, la Grèce et l'Italie, étant sous pression migratoire, bénéficieront quant à eux de ce mécanisme étant pays d'entrée des migrants. Je rappelle que si vous refusez d'accueillir ces demandeurs d'asile, vous êtes redevable d'une contribution de 20 000 euros par migrant. Qu'en est-il alors de la France ? Sous Emmanuel Macron, nous accueillons 500 000 étrangers par an. Nous avons le record de premiers titres de séjour délivrés. Nous avons le record européen des demandes d'asile. Nous finançons l'aide médicale d'État pour les clandestins et différentes prestations sociales qui sont de véritables pompes aspirantes de l'immigration. Pourquoi ne sommes-nous pas exemptés également de ce mécanisme de relocalisation ? Monsieur le Premier ministre, nous le disons fermement et sans ambiguïté. Nous avons fait plus que notre part. Il est inacceptable que notre pays se voie imposer à la répartition des flux de cette véritable filière qui alimente massivement l'immigration clandestine. Tout cela financé par l'impôt des Français. Monsieur le Premier ministre...
Mickaël Taverne, il est député du Nord, il a 46 ans, il est policier instructeur de police auprès du commissariat central de Lille. C'est un ancien cadre du parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Il soutient les forces de l'ordre, il avait déposé une proposition de loi pour instituer une présomption de légitime défense pour les policiers. Et il pose une question sur les mécanismes de relocalisation des demandeurs d'asile en Europe. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui lui répond.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député. D'abord, vous dire qu'il s'est tenu un conseil des ministres européens, le conseil JAI le 8 décembre, très important, qui traitait justement des thématiques dont vous parlez. Il faut se féliciter d'abord que la position de la France a été reconnue, retenue, grâce au soutien de l'Italie et l'Allemagne, dans le cadre du règlement retour, qui va venir se substituer à la directive retour. Et comme vous le savez, nous avons obtenu, donc la discussion va se poursuivre dans le cadre du trilogue, mais nous avons obtenu d'inverser le principe. On sera plus sur un principe de départ volontaire, mais départ contraint, et le départ volontaire deviendra l'exception. De la même façon, on a obtenu la possibilité d'avoir, sur les étrangers en situation irrégulière les plus récalcitrants, des techniques intrusives, et notamment pour retenir leur téléphone et mieux lutter contre les filières. Le mécanisme auquel vous faites allusion, c'est le mécanisme en fait du pacte de solidarité, donc au sein de l'Union européenne. européenne. Vous avez un certain nombre d'États, effectivement, qui subissent une pression extrêmement forte. Et il y a des mécanismes de solidarité qui se mettent en place. Il y a trois types de mécanismes de solidarité. Il n'y a pas que les relocalisations. Il y a certes les relocalisations, il y a des compensations qui peuvent être également à caractère financier. Et puis, il y a des retenues. On peut nous imputer notre part de Dublin. C'est-à-dire qu'on reçoit des demandeurs d'asile qui, normalement, sont dublinés, doivent retourner dans le pays où ils ont présenté leur demande. Eh bien, si nous acceptons moins de relocalisation, ça veut dire qu'on transférera moins de Dublin dans un autre pays. Et tout ça, c'est un équilibre. Ça s'appelle la solidarité entre les États de l'Union européenne. Et je puis vous assurer que, comme ministre de l'Intérieur, je veille à protéger les intérêts de la France. Et sur le volume des relocalisations, nous discutons avec l'Italie, avec l'Allemagne, pour que ce soit le moins pénalisant pour notre pays, mais que dans le même temps, par souci d'équilibre, nous contribuions évidemment au mécanisme de solidarité.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député.
Monsieur le ministre, 80% des Français veulent un durcissement de la politique migratoire en France. Je rappelle qu'en 2021, Emmanuel Macron disait que l'immigration était une chance pour la France. Donc avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, en 2027, nous organiserons un référendum pour que les Français puissent reprendre leur destin en main et surtout mettre fin à cette submersion migratoire.
Le référendum sur l'immigration promis par Marine Le Pen dès 2022.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je regrette, Monsieur le député, vous n'avez absolument pas écouté ma réponse. Absolument pas. Non, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous luttons contre les filières. On crée 3000 places. On crée 3000 places en CRAS si vous votez le budget, évidemment. Et puis on va continuer à démanteler les filières comme nous le faisons en droit national. Et l'Europe nous le permet. Vous n'avez pas écouté ma réponse. Je suis sidéré.
Il faut regarder la chaîne de Jean Massier pour écouter les réponses.
Allez, un peu de silence. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je voudrais, en votre nom à tous, souhaiter la bienvenue à Monsieur Angelo Farrugia, président de la Chambre des représentants de la République de Malte. Bienvenue à vous, Monsieur le Président. Merci à tous et je donne la parole à Madame Céline Calvez pour le groupe Ensemble pour la République.
Céline Calvez, députée
des Hauts-de-Seine. Il y a des fiertés qui méritent d'être ici discutées à l'Assemblée. Le prix du meilleur jeu vidéo au monde vient d'être décerné à Clair Obscur, Expédition 33. Bravo à eux, c'est le tout premier jeu vidéo d'un studio français, Sandfall Interactive. En moins de 6 mois, le jeu vidéo a conquis 5 millions de joueurs à travers le monde. Et au-delà de ces chiffres, ça marque vraiment une direction artistique affirmée, une narration pleine de sensibilité, mais aussi une création musicale originelle qui cartonne sur les plateformes et qui remplit déjà les salles. Tout récemment aussi, on a le succès du film d'animation Loup d'Intermarché, qui va dépasser le 1 milliard de vues sur Internet. Ça veut dire que largement, cette production d'un studio, là aussi français, de Montpellier, eh bien, dépasse les frontières, peut-être parce qu'il a été fait sans aucune IA, peut-être aussi parce qu'il a un propos intéressant, celui du vivre ensemble, dont nous avons profondément besoin. Ces deux succès révèlent ce que la France sait faire de mieux, transformer les créations en émotions et transformer l'art en langage universel. Et puis ces deux succès d'actualité ne sont pas une exception. C'est loin d'être une exception, c'est plutôt l'éclatant signal d'une réussite et d'un potentiel immense, celui des industries créatives et culturelles, les ICC. Les industries culturelles et créatives françaises, c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est 1 million d'emplois directs et indirects dans notre pays. Et ces ICC, on les exporte, on pourrait encore plus le faire quand on compare aux succès commerciaux des contenus culturels.
Céline Calvez, elle est députée des Hauts-de-Seine du côté de Levallois-Perret. Elle a 46 ans, elle est consultante en communication et ancienne chef de projet pour Publicis Events, qui est un groupe de communication. Elle a commencé sa carrière auprès de Jean-Louis Borloo. Elle a rejoint le mouvement des jeunes socialistes avant de rejoindre En Marche. Sachez que son mémoire de fin d'études portait sur les QAG retransmises à la télévision. Ceci n'est pas une blague, elle est vice-présidente de la commission des affaires culturelles et elle pose une question sur Clair Obscur, évidemment, bien sûr.
En charge de l'intelligence artificielle et du numérique.
Merci. Alors le gouvernement, on est fiers de Clair-Obscur ?
Madame la députée, pour votre question, oui, la France dispose d'une excellence reconnue en animation, en jeux vidéo et plus largement les industries créatives et culturelles. Vous l'avez rappelé avec des exemples très parlants, le film d'animation du Loup d'Intermarché et le jeu Clair-Obscur Expédition 33. J'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer le studio Sandfall Interactive à l'occasion de la Paris Games Week. Ce succès s'inscrit dans une filière solide, une filière d'excellence. Le secteur du jeu vidéo représente des chiffres impressionnants. 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 600 studios répartis sur tout le territoire.
C'est nous, c'est
12 000 emplois, des structures très diversifiées, énormément de toutes petites entreprises jusqu'aux géants tels que Ubisoft. C'est aussi une filière d'excellence en matière de formation. Il y a plus de 550 formations dédiées. 4 écoles françaises qui font partie du top 10 des écoles au niveau mondial. Vous m'interrogez sur les priorités du gouvernement. D'abord, accompagner la compétitivité de la filière, notamment à travers le crédit impôt jeux vidéo. Il y a déjà eu 400 jeux, 200 studios qui en ont bénéficié. Ensuite, accompagner l'innovation. La filière a été parmi la première à intégrer de l'IA dans son mode de fonctionnement. Donc c'est exceptionnel pour l'intégration et le développement de l'IA en France. Et enfin, nous comptons former et accompagner la filière à l'export avec France 2030, le programme Culture Export de BPI France. Avec ma collègue ministre Rachida Dati, nous assumons une ambition politique claire, faire de l'exception culturelle française un facteur d'influence et de souveraineté. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Vive le jeu vidéo.
La parole est à présent à Madame Karen Hérodi pour le groupe La France Insoumise.
Karen Hérodi, députée du Tarn.
Travaillant moi-même dans le bâtiment, je salue et soutiens la mobilisation d'aujourd'hui des entreprises artisanales dans tous les départements à l'appel de la CAPEB. Monsieur le ministre Jean Brun, de ce que vous avez fait de ma prime Rénov', ce n'est pas une réforme, c'est du sabotage. Sabotage pour des millions de Français. Passoire thermique l'hiver, bouilloire l'été. Plus de 3,1 millions de ménages vivent dans la précarité énergétique. Vous baissez les budgets, vous changez les règles, vous rendez les démarches illisibles, vous entretenez l'instabilité. Quand vous dites, monsieur le ministre, pas de budget, pas de guichet, c'est du chantage parlementaire, vous agitez les peurs. En clair, vous menacez de suspendre ma prime Rénov' si le Parlement n'avale pas votre cure d'austérité, alors que vous sacrifiez les ménages, vous sacrifiez nos artisans, vous sacrifiez nos TPE, nos PME, des dossiers bloqués, des chantiers annulés, toute une filière est à l'arrêt. Ce recul brutal est vécu comme un véritable désaveu de l'ambition écologique. Votre objectif d'atteindre 900 000 rénovations par an d'ici 2030 est désormais hors de portée. Résultat, 40 000 emplois ont disparu en 2 ans dans le bâtiment. Les entreprises artisanales demandent pourtant des choses de bon sens. Le retour des monogestes performants dans MaPrimeRénov', des travaux adaptés aux réalités des ménages, un parcours d'accès clair et lisible qui permet d'engager des travaux étape par étape sans bloquer les foyers ni les entreprises. Une simplification de la qualification du label RGE avec un contrôle par chantier pour faciliter l'accès aux entreprises artisanales. Une filière de traitement des déchets qui fait payer les pollueurs à la place des petites entreprises. Mise en place d'une carte départementale des points de collecte claire et partagée par tous les acteurs. Comme toujours, vous, alliés de la Macronie, vous frappez les plus précaires, les petites entreprises, pendant que vous choyez les multinationales. Monsieur le ministre, quand allez-vous en faire ?
Karen Hérodi, députée du Tarn, du côté d'Albi. Elle a 48 ans, elle est gérante d'une entreprise d'économie de la construction. Elle est militante associative également. Sa permanence parlementaire a été attaquée en mars dernier par la coordination rurale. Elle a déposé plainte et elle a été secrétaire comptable du comité régional de la CGT d'Occitanie. Elle pose une question sur le mal-logement et sur la rénovation thermique des bâtiments.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, quel plaisir d'entendre la France insoumise défendre les entreprises, ça nous change. Et vous avez raison de parler de leur sort, car par l'instabilité dont vous avez été en grande partie la cause, eh bien effectivement, elles ont été beaucoup impactées. Alors vous m'interrogez sur MaPrimeRénov', eh bien parlons de MaPrimeRénov'. Le budget est maintenu à plus de 4 milliards d'euros pour que justement nous puissions pousser à fond notre ambition en matière de rénovation de l'habitat. Parce que derrière, il y a un enjeu pour le pouvoir d'achat des familles, il y a évidemment un enjeu pour le climat, et bien sûr, il y a un enjeu pour nos artisans et nos petites entreprises qui ont besoin de MaPrimeRénov' pour pouvoir mener des chantiers d'ampleur et maintenir leur économie. Mais si vous êtes, Madame la députée, avec votre groupe, intéressée par le climat, intéressée par le pouvoir d'achat des familles, intéressée par les artisans, eh bien vous n'avez qu'à voter le budget.
Je vous remercie.
Ah, ça joue, ça joue.
La parole,
l'argument est classique.
Monsieur Romain Eskenazi pour le groupe socialiste.
Romain Eskenazi, député du Val d'Oise.
Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier ministre.
La découverte de poupées pédopornographiques et d'armes en vente libre sur un site internet en France et par la suite le refus de cette entreprise de se présenter devant la représentation nationale est le symbole à la fois de leur mépris pour notre démocratie et des failles de notre état de droit à la fois au niveau français et européen. J'ai eu l'honneur depuis 5 mois de présider la mission d'information sur le contrôle de nos importations et avec les 2 rapporteurs ici présents, nous avons présenté nos conclusions ce matin en commission développement durable et elles sont accablantes. 175 millions d'articles sont arrivés à Roissy en 2022, 410 millions en 2023, 775 millions en 2024. Cela double chaque année pour atteindre le chiffre pharaonique de 4,6 milliards de colis arrivés en Europe l'année dernière, c'est 12 millions par jour. Lorsqu'il y a des contrôles, il y en a très peu. 0,008% des produits sont contrôlés. Elles révèlent des fraudes massives. Notre rapport dit systémique, avec jusqu'à 95% de non-conformité lors d'un contrôle fin 2022 sur 250 palettes. Cela instaure une concurrence déloyale qui met à bas notre économie, des filières entières et détruit des emplois. Cela met en danger nos consommateurs, avec notamment des jouets qui sont dangereux. Cela dégrade notre environnement et met en péril nos recettes fiscales. Il est urgent, monsieur le Premier ministre, d'agir et d'agir avec force au niveau français comme européen. Au niveau européen, c'est le sens d'une proposition de résolution adoptée le 3 décembre à l'unanimité à l'Assemblée nationale, alors que l'Union européenne détricote actuellement le devoir de vigilance. Agir au niveau national, c'est le sens d'une proposition de loi, monsieur le Premier ministre, que j'ai déposée ce matin même sur la base des conclusions de notre rapport.
Justement, Romain Eskenazi, député du Val d'Oise, du côté de Montmorency, il a 39 ans, il est directeur adjoint des hôpitaux de Saint-Denis et de Gonesse. Il a participé à la création d'un café-concert quand il avait 22 ans. À Montmorency, il a rejoint le cabinet du maire de Montmorency, il est adhérent du club de boxe de Montmorency, c'est important, et il est président de la mission d'information sur le contrôle des produits importés en France et la réciprocité. Il est donc au cœur du sujet des importations.
Pour protéger les consommateurs et notre économie.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Serge Papin, ministre en charge des PME, du commerce et de la...
Serge Papin.
Merci, madame la présidente. Monsieur... Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Eskenazi, merci de votre question et merci de cette proposition. Et je vais continuer de travailler avec vous, avec cette Assemblée, sur vos propositions. Vous avez d'ailleurs écrit au Premier ministre à sa demande, donc nous allons prévoir un échange avec vous pour avancer sur cette voie. Parce que notre but commun, en effet, notre détermination, c'est bien de protéger nos consommateurs des produits dangereux, vous l'avez dit, nos entreprises et nos commerces de concurrence déloyale et l'environnement, bien sûr, à l'heure où nous fêtons les 10 ans de la COP21. Permettez-moi aussi de saluer votre engagement et celui de vos collègues, Olivia Grégoire, Anne-Cécile Violant, Antoine Vermorel-Marquez et Julien Guibert. Je veux souligner qu'avec le rapport parlementaire que vous venez de présenter, vous poursuivez aussi ce travail d'éveil des consciences, et il est important. Le côté systémique, vous l'avez dit, du non-respect des normes et du code de la consommation, c'est le business model de ces plateformes. Et il faut donc inverser maintenant la charge de la preuve. Et Shein, d'ailleurs, a suspendu sa marketplace en France, encore à date, et cela en dit long sur sa capacité à ne pas le faire, justement. Et c'est une première victoire. Et nous attendons ce vendredi une décision de justice qui pourrait imposer de manière pérenne cette suspension. Alors soyez assurés que ce qui s'applique à Shein s'appliquera aussi aux autres plateformes coupables des mêmes manquements. Au niveau européen, la France, avec 7 autres États membres, a demandé l'application radicale du droit européen. Et cela passera par des enquêtes. Cela passera, je l'espère, aussi par des sanctions. Monsieur le député, ce combat, il va être long parce qu'on a affaire à des acteurs puissants, mais il est indispensable qu'on se protège. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Alix Fruchon pour la droite républicaine.
Alix Fruchon, députée de l'Indre.
Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre, je souhaite relayer les inquiétudes des agriculteurs situés en zone intermédiaire quant au devenir de leur exploitation. À l'époque, il y a 6 ans, la définition de cette zone à faible potentiel devait conduire à une augmentation des aides du deuxième pilier de la PAC. Et elle s'est finalement traduite par une augmentation d'à peine 1 euro par hectare au lieu des 20 euros évoqués et des 50 euros nécessaires. À l'heure de la renégociation de la PAC, les inquiétudes légitimes montent quant au regard du budget, global annoncé en baisse de 20 à 23%. Ces perspectives laissent penser qu'en plus de connaître un sol moins fertile, moins 20% de rentabilité, les agriculteurs situés en zone intermédiaire verraient leur aide PAC diminuer drastiquement entre la baisse du budget global et la dégressivité annoncée sur la future aide aux revenus. S'ajoute à cela la taxe carbone via le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières, l'empilement des normes, des contraintes, une forte concurrence déloyale ressentie comme n'arrivant pas à être endiguée et une fiscalité pas adaptée aux aléas climatiques touchant de plein fouet nos zones intermédiaires et aux besoins vitaux des exploitations de s'assurer une trésorerie conséquente sur le long terme sans être matraquée fiscalement pour essayer de tenir des chocs de rendement comme cette année. Aujourd'hui, l'ensemble de ces éléments conjugués conduisent dans l'Indre, par exemple, à ce que quasiment une exploitation céréalière sur deux soit dans le rouge. L'élevage, très présent chez nous, doit être aussi au cœur de notre système et accompagné. Les PGE ne sont plus envisageables financièrement pour les agriculteurs et l'assurance récolte ne fonctionne plus, car la moyenne olympique des rendements ne fait que baisser. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire si la France compte s'engager pour un budget PAC au moins équivalent?
Alix Fruchon, députée de l'Indre, elle a 31 ans, elle est juriste, ancienne collaboratrice parlementaire de Nicolas Forissier, députée Les Républicains de l'Indre. Elle est la suppléante de Nicolas Forissier. Et Nicolas Forissier, comme vous le savez, il a été nommé ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité en novembre dernier. Donc, elle est devenue députée.
Et aux agriculteurs français qui connaissent des situations de détresse économique et psychologique absolument dramatiques. Je vous remercie.
Merci Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture.
Annie Genevard va parler d'autre chose que de la dermatose nodulaire.
La présidente, mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Alix Fruchon. Parlons déjà de la PAC, c'est le sujet important du moment. La proposition de la Commission, clairement, nous apparaît très insuffisante. La France ne peut pas accepter la baisse de 20% du montant garanti dédié à la PAC. Ce projet fait d'ailleurs l'objet d'un fort rejet, puisque 17 pays sur 27 ont rejeté en demandant précisément une PAC qui soit autonome, un budget qui soit garanti, et le Parlement européen lui-même a menacé de le rejeter. Et les organisations professionnelles agricoles se montrent également extrêmement critiques. Donc la France est très ferme. Lors des échanges avec la Commission, elle demande le maintien d'un budget qui reviennent aux agriculteurs français au minimum à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui en francs courants, en euros courants. Je ne parle pas d'euros constants, mais au moins en euros courants. On demande une clarification et un traitement explicite des mesures POSEI, c'est-à-dire la PAC de l'outre-mer. Nous demandons le rapatriement des dispositions réglementaires dans la PAC. On ne peut pas imaginer que chaque pays définisse lui-même son actif agricole. Et puis enfin, nous demandons une recommunautarisation de la PAC. Dans PAC, il y a le C de commun et c'est sa force. Ensuite, vous m'interrogez plus spécifiquement sur le soutien de l'État aux agriculteurs des zones intermédiaires et cela soulève en particulier le sujet de l'extension de l'ICHN. Donc je voudrais vous rappeler que la déclinaison de la PAC prévoit deux MAEC spécifiquement adaptés à ces zones qui sont en souffrance, vous avez raison de le souligner, et les montants d'aide prévus sont de 92 euros par hectare pour les grandes cultures et 57 euros par hectare pour la polyculture élevage. Nous suivons cela de très près. Vous avez évoqué enfin la question du MACF. C'est un sujet de première importance qui risque de déséquilibrer un peu plus les grandes cultures et nous y sommes très vigilants.
Tout à fait. Mais là, c'est fini, là.
Ministre, merci. La parole est à présent à Madame Léa Balage-El-Mariki pour le groupe écologiste et social.
Léa Balage-El-Mariki, députée de Paris.
Madame la présidente, depuis bientôt 4 ans, le peuple ukrainien résiste à une guerre d'agression d'une brutalité extrême. Face à cette situation, ne rien faire, c'est trahir. L'Ukraine résiste, mais elle ne pourra pas s'en sortir seule. 135 milliards d'euros, c'est ce qui lui manquera en 2026 et 2027 pour rester debout. Poutine doit payer pour la guerre qu'il a déclenchée et les Européens ont les moyens de l'y contraindre. Notre atout, ce sont les avoirs russes gelés, qui représentent 210 milliards d'euros, dont 185 en Belgique. Au-delà des intérêts qu'ils génèrent, il faut désormais mobiliser ces capitaux. Nous saluons la décision de les immobiliser de manière définitive, mais nous devons aller plus loin. Pas pour les confisquer, mais pour garantir un prêt européen à l'Ukraine, comme le propose la Commission. C'est la solution la plus responsable. Elle ne crée pas de nouvelles dettes, elle ne pèse pas sur les finances nationales et elle permet à l'Europe d'agir quand Trump s'agite. Alors, Monsieur le Premier ministre, à l'approche du sommet de jeudi, le compte à rebours s'accélère. La France doit avoir une position claire sur ce point. Nous n'avons été que trop silencieux dans le débat européen. La France doit soutenir l'utilisation de ses avoirs pour asseoir le prêt de réparation européen sur des garanties apportées par les États, dont la France. Elle doit s'engager également à la mutualisation des risques au niveau européen en mettant sur la table les 23 milliards d'euros d'avoirs gelés dans les banques commerciales françaises. Allons-nous laisser seuls les Belges en première ligne et prendre 50 fois plus de risques que nous ? Enfin, affirmer sans ambiguïté que l'Europe ne cédera pas au chantage russe ni à la logique de l'impunité en dénonçant les traités d'investissement bilatéraux qui permettent aux oligarques de contourner les sanctions.
Léa Balage-El-Mariki, députée de Paris, elle a 35 ans. Elle a été directrice de la coordination de SINGA, l'association d'aide aux personnes réfugiées et migrantes. Elle a rejoint le cabinet de Noël Mamère après ses études. Elle a bossé au bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Elle a été adjointe du maire du 18e arrondissement de Paris. Elle pose une question sur l'Ukraine et l'utilisation des avoirs russes pour financer le soutien aux Ukrainiens.
Les partenariats internationaux.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la députée Balage El-Mariki. Vous avez raison, alors que la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine s'intensifie, que les besoins de l'Ukraine restent très importants, nous devons continuer à soutenir l'Ukraine. Nous sommes d'ailleurs engagés dans cette voie. Vous avez raison de parler aussi des avoirs souverains. Plus de 200 milliards d'euros, vous l'avez rappelé, sont aujourd'hui immobilisés dans les juridictions de l'Union européenne. C'est un véritable levier et vendredi dernier, vous l'avez dit, mais c'est important de le rappeler, une décision majeure a été prise. Au lieu de devoir reconduire tous les 6 mois cette immobilisation, il a été décidé que cette immobilisation continuerait jusqu'à la fin de l'agression russe en Ukraine. C'est véritablement une avancée majeure qui nous permet de disposer d'un levier envers la Russie. Cette décision doit évidemment s'accompagner d'autres décisions et c'est tout le but des discussions qui auront lieu jeudi prochain. La France est engagée pour un soutien à la fois sur le plan civil et militaire et a évidemment la volonté qu'un accord puisse être trouvé au Conseil européen jeudi. Il faut évidemment continuer à exercer une pression accrue sur la Russie dans ces négociations de paix et c'est aussi les discussions qui auront lieu à Berlin la semaine prochaine qui ont permis cette avancée. C'est à la Russie de faire le choix de la paix. C'est la Russie qui aujourd'hui empêche que cette paix ne puisse avoir lieu. Et donc évidemment que nous continuerons à soutenir nos efforts dans ce sens. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Une seconde.
Une seconde, vas-y.
Arrêtez de tergiverser et prenez des actes vraiment jeudi.
Merci Madame la députée. La parole est à présent Monsieur Cyril Isaac Sibille pour le groupe démocrate.
Cyril Isaac Sibille, député du Rhône.
Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Madame la ministre, pouvons-nous affirmer aux Français que l'eau qu'ils boivent au robinet est saine ? TFA. Le TFA, comme acide trifluoroacétique, appartient à la famille des PFAS et en est le plus petit métabolite. Or, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, ANSES, vient de révéler que le TFA était présent dans 92% des échantillons d'eau potable analysés en France. Dans le même temps, d'autres analyses ont mis en évidence la présence de TFA dans des aliments du quotidien, comme les céréales, le pain, les viennoiseries, à des niveaux très élevés. Or, le TFA pose un triple problème. Étant le plus petit des PFAS, il est le plus mobile, le plus diffusable. Il semble résister au système de filtration classique. Et surtout, son profil toxicologique reste mal connu, alors même qu'il appartient à la famille des PFAS, dont certains sont avérés dangereux pour notre santé. Madame la ministre, vous avez la responsabilité de la qualité de l'eau que boivent nos concitoyens. Ayant connaissance de ces diffusions généralisées du TFA, et avant que ce problème sanitaire ne prenne une dimension incontrôlé. Pensez-vous exercer une forte pression au niveau européen pour que le programme PARC puisse enfin nous apporter des données sur le degré de toxicité du TFA ? Première question. Deuxième question, confirmez-vous également agir auprès de l'Europe pour que son agence, l'ECA, puisse enfin définir des valeurs toxicologiques et sanitaires de référence pour l'eau du robinet ? Troisième chose,
Cyril Isaac, député du Rhône, il a 67 ans, il est médecin ORL, il est centriste depuis l'âge de 18 ans, il était chez l'ancêtre de l'UDF et du MoDem, il a été rapporteur d'une mission d'information sur le dossier médical partagé.
Merci.
Pose une question sur les polluants éternels dans l'eau du robinet.
Député Cyril Isaac Sibyl, pour votre question, merci pour votre engagement depuis plusieurs années maintenant sur ces sujets. Vous savez qu'avec la ministre de l'écologie, nous coordonnons nos ministères pour une réduction des risques, une action coordonnée. S'agissant du TFA, concernant votre question, nous avons effectivement retenu transitoirement la valeur sanitaire indicative allemande de 60 microgrammes par litre dans l'attente des travaux européens, avec un objectif plus protecteur à 10 microgrammes par litre. Le TFA a été détecté dans plus de 90% des échantillons de la campagne exploratoire de l'ANSES. Aucune eau traitée ne dépasse toutefois la valeur des 60 microgrammes par litre. Seuls deux sites dépassent la cible de 10 microgrammes par litre. Le TFA fait actuellement l'objet d'une expertise européenne menée par l'EFSA, dont les conclusions sont attendues le 31 juillet 2026. La France s'alignera sur les standards les plus exigeants et est pleinement engagée dans les travaux susceptibles de faire évoluer la directive sur l'eau potable. Au regard des résultats de l'ANSES, j'ai décidé d'ajouter le TFA ainsi que le 6.2 FTSA au décret à paraître. Celui-ci mettra à jour la liste des PFAS recherchées dans l'eau potable par les ARS dans le cadre du contrôle. J'ai pleinement conscience des coûts liés à la dépollution de l'eau. Je voudrais rappeler que dans le PLF, il y a une hausse du plafond des redevances des agences de l'eau de plus de 175 millions. Nous avons besoin de ce budget pour que cette hausse puisse entrer en vigueur. Les agences de l'eau viennent en soutien des collectivités.
Il y a de l'eau du robinet dans le chat.
Pour gérer le problème d'approvisionnement ou forer un autre puits, comme sur la commune de Saint-Louis. Enfin, je suis également attentive aux travaux de la mission inter-inspection chargée d'identifier les leviers de financement. Ces conclusions sont attendues premier trimestre 2026. Voilà, monsieur le député, vous pouvez compter sur mon engagement.
Fort bien.
Monsieur le député.
Madame la ministre, merci beaucoup pour ces précisions, dans le sens qu'effectivement ce seuil de 60 microgrammes effectivement est assez élevé. Vous le baissez à 10 microgrammes, bravo. Et donc effectivement, j'espère effectivement que les agences européennes et nos agences puissent donner des solutions. Merci à vous.
Merci monsieur le député. La parole est à présent à madame Constance de Pélichier pour le groupe Lyotte.
Constance de Pélichier, députée du Loiret.
Merci madame la présidente. Madame la ministre, voilà. Cette année, les messages de condoléances dépassent ceux de félicitations et c'est une réalité glaçante. Le nombre de naissances s'est effondré, comme si les Français, champions de la natalité, c'était du passé. Mais il n'y a pas de fatalité. Et depuis plus de 6 mois, nous travaillons avec quelques collègues députés sur les raisons qui font renoncer à un désir d'enfant. Près de 30 000 Françaises et Français ont répondu à la consultation que nous avons lancée et je les en remercie. Leur message est sans appel. Les deux tiers nous disent qu'améliorer les congés et les modes de garde les inciterait à faire un enfant de plus. Et je les comprends. Votre enfant a 2 mois et demi et on vous demande de retourner au turbin. Vous n'êtes pas remise de votre accouchement. Les nuits sont hachées. Votre allaitement est condamné, sans parler de la création du lien d'attachement, de la sécurité affective encore si fragile. Et en plus, vous devez confier ce que vous avez de plus précieux à des inconnus. Souvent, sans véritable choix sur les modes de garde. Bien oui, c'était la seule place disponible. Mais voilà, l'État vous alloue jusqu'à 900 euros mensuels pour confier votre bébé, le double de l'indemnité du congé parental. Le message est donc clair. Le retour rapide au travail est plus important que tout le reste. Pour stopper la chute vertigineuse des naissances, la question des congés, des modes de garde, de la conciliation vie pro-vie perso est cruciale. Les pays scandinaves nous le démontrent. On peut concilier congés longs, carrière professionnelle et égalité entre les femmes et les hommes. Le congé de naissance adopté hier est une avancée nécessaire, mais pas suffisante. Nous devons permettre aux mères de mieux accueillir leur nourriture.
Constance de Pélichy, députée du Loiret, elle a 39 ans. Elle a été collaboratrice parlementaire de Dominique Baudis, le député européen. Elle est franco-belge. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Elle est présidente de la mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité. Voilà pourquoi elle pose une question sur la démographie.
Véritablement le choix.
Merci, madame la députée.
Et j'en profite pour vous encourager à faire des bébés.
Ministre de la Santé.
Je ne dirai pas comment faire.
Merci, Madame la Présidente, Madame la députée Constance de Pélichy, merci pour votre question. Vous l'avez dit, cette année a un tournant majeur, là où les décès sont supérieurs au nombre de naissances, avec une baisse de 20% depuis 2010 de naissances. Ce constat traduit pas nécessairement d'ailleurs une baisse du désir d'enfant, et notre pays arrive dans la moyenne européenne. L'action publique n'a pas vocation à donner des injonctions, mais est là pour lever les obstacles. Et vous l'avez dit aussi, ces obstacles sont multifactoriels. Le premier, c'est l'infertilité. Cela concerne un couple sur 8, femmes et hommes confondus. C'est une épreuve pour tous les couples, une épreuve importante. Mais c'est aussi un sujet de prévention, de recherche et d'accès aux soins. C'est pourquoi nous travaillons sur l'ensemble de ces sujets. Par ailleurs, c'est aussi dû à des conditions de vie parfois plus compliquées, avec des difficultés d'accès au logement, des parcours résidentiels instables, une évolution des normes sociales marquée par la montée du discours « no kids » qui rend plus difficile la projection dans la parentalité. C'est aussi une conciliation, vous l'avez dit, entre vie professionnelle et vie familiale parfois déséquilibrée. C'est pour répondre à ce dernier point que hier, dans le cadre du PLFSS qui a été voté, le congé supplémentaire de naissance est créé. Il sera mieux indemnisé, partageable et permettra de cumuler jusqu'à les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Il se rajoute au congé parental qui ne doit plus être un choix du coup contraint. Par ailleurs, nous avons décidé d'orienter le financement public aussi de 600 millions d'euros dans la réforme du complément de libre choix du mode de garde qui vise à réduire le reste à charge.
Comme avait dit le général de Gaulle, il faut faire des enfants sur une grande échelle.
Refuser les
injonctions. Ce à quoi quelqu'un avait répondu, c'est pas pratique.
Des conditions concrètes pour que les familles puissent choisir librement leur avenir.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Marie-Agnès Poussier-Vinsbach pour le groupe Horizon.
Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, députée de Seine-Maritime.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, la modernisation de l'État n'est pas un luxe. Elle est la condition pour que l'État reste efficace, crédible et à la hauteur des défis du pays. Moderniser l'État, c'est lui redonner de la puissance pour mieux lutter contre la fraude, pour mieux protéger les citoyens, pour rendre l'action publique plus rapide et plus juste. Sur ce sujet, le groupe Horizon et Indépendants est clair. Nous soutenons un État plus moderne, plus simple et plus efficace. Cette modernisation ne peut toutefois se concevoir sans garantie particulièrement forte en matière de protection des données personnelles. Notre pays a historiquement été pionnier en la matière avec la création de la CNIL, cadre renforcé par les exigences européennes du RGPD. Or, vous avez confirmé ce matin qu'une attaque informatique ayant touché le ministère de l'Intérieur a conduit à l'extraction de dizaines de fiches confidentielles. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées auraient notamment été consultés alors même qu'il s'agit de fichiers extrêmement sensibles, essentiels au travail des forces de sécurité et qui n'ont évidemment pas vocation à être accessibles au grand public. Cette attaque informatique est particulièrement grave. Elle interroge d'autant plus que s'ouvre dans les prochains jours l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude qui prévoit un élargissement de l'accès à certains fichiers à des opérateurs extérieurs à l'administration. Dans ce contexte, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser l'ampleur exacte de la compromission constatée et le contenu précis des données qui ont été extraites ? Par ailleurs, au-delà de la gestion de cette urgence, quelles mesures...
Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, députée de Seine-Maritime du côté de Fécamp, elle a 58 ans, elle a été professeure d'économie au lycée Saint-Joseph du Havre. En 2014, elle a fait basculer la ville de Fécamp à droite après 25 ans de gouvernance PS. Puis elle a suivi Édouard Philippe pour la création d'Horizon. Elle pose une question sur le hacking du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On en est où ?
Mesdames et messieurs les députés, madame la députée. Donc effectivement, je vous rejoins tout à fait. Ce qui s'est passé est très grave. L'intrusion malveillante qui a eu lieu dans nos systèmes d'information est très grave. Je ne le nie pas et c'est bien pour cela que je souhaite que nous fassions la plus grande transparence là-dessus. D'abord les faits, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons fait l'objet d'une intrusion par un hacker, très probablement, puisque l'action a été revendiquée ensuite sur les réseaux sociaux, qui a utilisé notre système de messagerie, qui a d'abord fait une intrusion sur nos messageries, et puis qui est allé rechercher des mots de passe parce que on n'a pas forcément toujours et c'est dommageable, respecter l'hygiène numérique qui consiste à éviter d'échanger sur des messageries en clair, des mots de passe qui permettent d'accéder à des fichiers qui sont eux des fichiers protégés. Et c'est comme ça que l'assaillant a pu effectivement consulter un certain nombre de fichiers, dont les deux fichiers dont vous parlez, et même, ce qui est évidemment très grave, procéder à une extraction d'un certain nombre de fiches. J'ai bien dit ce matin donc, sur France Info que c'était, on parlait de quelques dizaines de fiches à date. Nous sommes encore en train de procéder à cet inventaire et donc je reste évidemment très prudent. Ce qui a été fait immédiatement, c'est évidemment de prendre un certain nombre de mesures de remédiation, notamment d'imposer systématiquement la double authentification, de fermer un certain nombre de comptes, de gérer nos messageries. Évidemment, ça va se traduire par un cadre de travail beaucoup plus contraint pour les agents, bien évidemment. Pour le reste, il y a une action en profondeur qui a été engagée par le ministère de l'Intérieur, comme tous les ministères, pour renforcer nos systèmes d'information d'une manière générale, grâce à l'ANSSI qui s'investit. Au cas d'espèce, l'ANSSI est saisie. Il y a une enquête judiciaire aussi, et je ne doute pas une seconde que l'assaillant sera évidemment retrouvé. Et puis par ailleurs, j'ai diligenté une enquête administrative et j'en tirerai évidemment toutes les conséquences en termes d'organisation de nos
systèmes. Donc pour l'instant, de ce que j'ai entendu à ce stade, il y a quelques dizaines de fiches qui ont été aspirées par le hacker, mais ils sont encore en train de regarder l'ampleur des dégâts, donc ça pourrait être plus. Et il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte et une enquête administrative également.
Monsieur le ministre, la parole est à présent à monsieur Yannick Monet pour le groupe GDR.
Merci madame la présidente.
Yannick Monet, député de l'Allier.
J'ai été alerté par les avocats du baron de Moulins sur le projet de décret dit Rivage pour la rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience. L'objectif affiché est de désengorger les cours d'appel en recentrant leur activité sur les litiges considérés comme les plus significatifs. Pour cela, vous envisagez de relever le seuil d'appel d'une décision de première instance de 5 000 à 10 000 euros. Vous envisagez également de supprimer purement et simplement le droit d'appel contre certaines décisions juges aux affaires familiales, par exemple les pensions alimentaires. Vous envisagez encore de rendre obligatoire la tentative de règlement amiable pour tous les litiges jusqu'à 10 000 euros contre 5 000 aujourd'hui. Vous envisagez enfin d'instaurer un filtrage des appels permettant au président de chambre des cours d'appel d'écarter d'emblée les appels, je cite, « manifestement irrecevables ». Monsieur le ministre, ces dispositions constitueraient un recul sans précédent dans l'accès des citoyens à la justice et une atteinte majeure au principe du double degré de juridiction. Elle pénaliserait les plus précaires, pour lesquels un litige de quelques milliers d'euros représente souvent un enjeu vital. Elle font de surcroît courir le risque d'une justice à deux vitesses, et j'oserais dire d'une justice de classe, entre les justiciables assistés d'un avocat en première instance, qui pourraient aisément contourner ces règles, et les justiciables les plus fragiles, qui les subiraient de plein fouet. Alors qu'une affaire civile met souvent des mois, voire des années à être jugée en appel, il est indispensable de tout faire pour réduire des délais aussi indécents. Mais cela passe par des recrutements massifs de magistrats et de greffiers et par une amélioration des outils informatiques et bureautiques, pas par une réduction des droits des justiciables.
Yannick Monet, il est député de l'Allier, du côté de Moulins. Il a 50 ans, il a été éducateur spécialisé à Moulins, cadre de la fonction publique, secrétaire fédéral du Parti communiste dans l'Allier, ancien conseiller municipal à Moulins, très engagé sur l'accès aux soins en zone rurale et le renforcement de l'hôpital public. Il pose une question sur les directives du ministre de la Justice sur les appels.
Je suis d'abord très heureux qu'on puisse parler de justice civile dans l'hémicycle, comme c'est essentiellement des mesures réglementaires. Le Parlement ne s'en saisit pas souvent. Pourtant, c'est 60% de l'activité de nos tribunaux et du travail de nos magistrats et donc des avocats. Et donc, c'est le rapport le plus évident entre les Français et leur justice. Alors, cet été, j'ai pris déjà deux décrets qui sont des décrets dits amiables, qui doivent permettre de passer d'un système plus de confrontation à, comme tout autour de notre pays, un système de concertation. Les avocats, la profession d'avocat l'a accompagné, je les en remercie, et ces décrets produisent un certain nombre d'efficacités, à la fois pour notre système judiciaire, aller plus vite, en effet, et en même temps une meilleure justice, celle qui est davantage négociée que celle qui est évoquée, même s'il y a l'homologation d'un juge. J'ai pris un pré-projet de décret, en effet, que j'ai soumis à la concertation, qu'on appelle Rivage. Sur les centaines de milliers de procédures, sans doute même plusieurs millions par an, cela concerne 12 500 dossiers par an. Pourquoi ? Parce que le décret Rivage, dans son projet, ne prévoit pas l'intégralité de la justice civile, bien évidemment, qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il faut sans doute remarquer, comme l'ont fait les avocats, de retirer les prud'hommes de ce décret, j'en suis tout à fait disposé, et par ailleurs qu'il s'agit, comme vous l'avez très bien dit, de toucher les mises en état de personnes, de dossiers qui sont manifestement illicites, parce qu'ils l'ont déposé, par exemple, après la date obligatoire de dépôt. Alors, même s'il s'agit de ne pas laisser de l'espoir à des personnes, donc à 90% la réponse est négative en appel, et donc de payer des avocats ou d'utiliser l'AJ alors que manifestement ce sera un non.
L'AJ, c'est l'aide juridictionnelle.
Par la forme et non pas de par le fond. J'ai cependant entendu les questions des avocats, celui de votre barreau bien évidemment, mais de tous les avocats. C'est pourquoi j'ai suspendu le décret rivage, que je prendrai les 6 mois qu'il faut de la concertation et s'il n'y a pas d'avis favorable à la profession d'avocat, je ne prendrai pas ce décret.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à
vous. Donc il s'en remet aux avocats ?
Éric Michoud pour le groupe UDR.
Éric Michoud, député de Saône-et-Loire.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je veux porter la colère des 330 000 salariés de la filière automobile en France. La colère d'une industrie qui se meurt pour faire allégeance au Green Deal européen. Une escroquerie environnementale. Le 23 octobre dernier, Emmanuel Macron a très clairement redit sa position contre l'automobile thermique et refait allégeance au pouvoir technocratique européen. En réalité, il n'aime pas l'industrie française, il n'aime pas la France, je crois qu'il n'aime pas les Français tout simplement. Pourtant, dans chaque grande puissance mondiale, l'industrie automobile est la colonne vertébrale des industries du pays. Avec elle se développent l'électronique, la robotique, la métallurgie, les filières et l'IA. Sans industrie automobile, pas de sidérurgie, pas d'acier, donc pas de canon, pas d'industrie de défense, plus de souveraineté. Avec le Green Deal, Bruxelles organise méticuleusement le grand remplacement des véhicules thermiques français par des véhicules électriques chinois. Mais voilà son sinistre cortège composé aussi de batteries chinoises, électroniques chinoises, panneaux photovoltaïques chinois, éoliennes chinoises, onduleurs chinois. Concrètement,
cuisine
c'est le
chinoise.
Remplacement de l'industrie française par l'industrie chinoise. La traîtrise. Monsieur le Premier ministre, allez-vous avoir le courage de suivre l'exemple de l'Allemagne et de réunir les...
Éric Michoud, député de Saône-et-Loire, du côté de Chalon-sur-Saône, il a 66 ans, il est PDG du groupe Galilée, qui est une holding rassemblant 335 PME françaises du secteur de l'innovation industrielle. Il pose une question sur le Green New Deal. Cette arnaque écologique qui nous empêche de rouler en voiture thermique.
Député Michoud, je vais répondre en lieu et place de mon collègue ministre de l'Industrie, Sébastien Martin. Concernant le paquet automobile européen, la Commission européenne a présenté ce que nous estimons un accord équilibré et fidèle à la ligne française. Il s'agissait à la fois de réussir la transition écologique sans sacrifier l'industrie européenne. De quels moyens ? Il s'agit notamment de soutenir l'industrie et l'emploi automobile européen, mais aussi de respecter le cap climatique que nous sommes engagés à tenir et qui est maintenu, et c'est un cap climatique crédible. Ce qu'il faut également retenir de ce paquet automobile européen, c'est que, contrairement à ce que vous laissez sous-entendre, on introduit la préférence européenne. Et notamment, le fabriqué en Europe devient une règle de conduite. Donc ça va à l'encontre exacte de ce que vous venez de proclamer. Et notamment, ça va s'exprimer de quelle manière ? En conditionnant les aides publiques. Et les aides publiques, à partir de 2028, vont nous permettre d'électrifier le parc automobile à hauteur de 60% sur les flottes professionnelles, sur les petits véhicules et sur les batteries. C'est une première étape. Nous irons encore plus loin, je vous le dis. Et la France a été fortement engagée sur ce sujet, sur ce combat. Et on salue l'équilibre global qui a été trouvé, finalement, entre affirmer une ambition d'électrification et apporter de la souplesse pour ne pas pénaliser l'industrie française et européenne, principalement. Sur la flexibilité envisagée à horizon 2035, la France salue la logique de compensation.
Mais attends, j'ai pas compris. Du coup, est-ce que l'Union européenne a décalé la date de 2035 pour la fin des véhicules thermiques ?
On sera particulièrement vigilant.
De ce qu'elle dit, j'ai l'impression que la France continue à maintenir 2035 comme horizon.
Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député.
Merci, Madame la Ministre. Mais si vous faites référence aux accords qui ont été dits hier, je vous encourage à demander à vos services de les lire. Parce qu'en réalité, à travers ces faux accords, les contraintes seront telles sur les voitures thermiques qu'en fait, on ne pourra plus en produire plus qu'aujourd'hui.
Merci Madame. Merci, Monsieur le Député. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Merci à tous.
C'est la fin de la séance de questions d'actualité gouvernement consacrée à Clair Obscur.
Non, ta gueule. Putain, il a niqué ma blague.
Consacré à Clair Obscur, évidemment, unanimité des députés français pour féliciter l'industrie vidéoludique française, bien sûr. Jeu de l'année, tout ça, on est les meilleurs. Cocorico, le loup aussi. Le loup d'Intermarché aussi, qui va faire 1 milliard de vues. Voilà, Cocorico, on est les meilleurs. Voilà, on est les meilleurs. C'est tout. Il n'y a pas de... Donc voilà, le gouvernement a félicité... Féliciter évidemment le studio qui a créé Clair Obscur. Il a également félicité la communauté Twitch qui a toujours soutenu les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ainsi que l'industrie vidéoludique. Voilà. Super. Ouais, super. C'est vachement bien. Ouais. J'ai vu cette pub pour le loup, mais j'ai pas compris pourquoi ça buzz. Bah parce qu'elle est toute mignonne. N'y a-t-il pas un peu de poésie dans ton cœur ? Voilà. Ça aurait été marrant de poser une question sur la réintroduction du loup dans les Pyrénées. Non, ce sera pour une autre fois. Même si on devrait travailler au lieu de regarder des gens qui jouent aux jeux vidéo. Oui, ça c'est vrai. Vous seriez plus productif. Il faut faire des bébés plutôt que de regarder Twitch. Ou en même temps, d'ailleurs. Enfin bref. De pas savoir. Le loup dans les Pyrénées, ok, mais il doit manger une tarte avec les lapins. Est-ce qu'on peut faire des bébés tout en travaillant ? Il y en a dont c'est le métier. Non, ça suffit. Les chasseurs n'aiment pas cette pub, tu m'étonnes. J'aimerais faire des bébés, mais les No Kids me dissuadent. Ouais, la ministre, elle a parlé du mouvement No Kids, en disant que c'était un élément qui freinait la natalité. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai du mal à me rendre compte de l'importance numérique du mouvement No Kids. Bon, je sais pas, j'ai vu des stories, j'ai vu des TikTok, mais j'ai pas l'impression que... C'est quoi le mouvement No Kids? Enfin, mouvement. Ce sont des femmes qui revendiquent de ne pas vouloir d'enfants du tout. Et qui le dit sur les réseaux sociaux, qui explique leurs raisons, etc. Moi, je vois, c'est ça. C'est pas un mouvement genre politique avec des revendications, c'est un truc personnel, mais pour dire, on ne veut pas d'enfants. Il y a aussi des hommes. Bah, je pense surtout aux femmes, parce que c'est surtout des femmes que j'ai vues expliquer leur choix. Mais voilà. No Kids égale liberté, c'est pas antinataliste ou je me trompe ? Non, c'est pas antinataliste. Enfin, les personnes qui choisissent de pas avoir d'enfants le font pour des raisons qui leur sont propres. Notamment la question de la liberté, l'envie de continuer à être maître de sa vie, etc. Il y a plein de raisons. C'est pas spécifiquement antinataliste, c'est pas un mouvement politique avec une réflexion en mode on a bien réfléchi et on pense que il faut pas faire d'enfants. Non, c'est plutôt un choix personnel. Antinataliste, c'est un peu con, non ? Non, alors c'est pas nécessairement con dans le sens où il y a des penseurs, il y a des écrivains, des militants écolos qui ont théorisé, depuis longtemps maintenant, l'idée qu'il faut réduire la population mondiale. Que c'est en soi nécessaire pour des raisons écologiques, qu'il y ait moins d'êtres humains à la surface de la planète.
Alors, c'est pas des génocidaires, hein, c'est pas des gens qui disent qu'il faut tuer qui que ce soit. Mais du coup, à défaut de tuer qui que ce soit, faisons moins d'enfants est aussi une position qui a été défendue dans le débat public, pour des raisons écologiques. Voilà. C'est comme ça que les peuples disparaissent. Non, enfin, le renouvellement de la population. Enfin, après, c'est une question de transition démographique aussi. Nous, en Europe, on a fait notre transition démographique depuis plusieurs siècles maintenant. Donc, ça y est, c'est fait. Mais, donc, on a moins d'enfants par femme. Mais normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est qu'habituellement, on a quand même un taux de renouvellement qui permet que la population se renouvelle naturellement, j'ai envie de dire. Pourquoi il faut réduire la population ? Quelle population il faut réduire ? Alors, j'en sais rien, je ne suis pas nataliste à titre personnel, mais j'ai lu, j'ai entendu des arguments présentés pour dire que l'être humain pollue la planète par son activité, par sa consommation, par sa nourriture, etc. Et qu'une planète qui compterait moins d'êtres humains serait plus soutenable écologiquement qu'une planète avec trop d'êtres humains à nourrir, à faire travailler, etc. etc. Et quelle population faut-il réduire ? A priori, plutôt la population des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, les pays les plus riches, a priori. Ceux qui ont un impact le plus lourd sur l'environnement. Voilà. Concrètement, si on fait qu'un enfant par femme, d'ici 100 ans, la population sera divisée par deux. Ouais. Mais c'est aussi une question, la question de la démographie, c'est aussi une question de soutenabilité du modèle. Parce qu'effectivement, si on divise par deux la population, on a d'autant moins de rentrées fiscales, on a d'autant moins de capacité à faire tourner les services publics, on a d'autant moins de capacité à maintenir notre niveau de vie par le soutien à l'activité économique. Sans parler du régime de retraite, dont je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur à quel point il est déficitaire de ce point de vue-là, à cause des baby-boomers. Donc la baisse de la natalité dans les pays développés serait une aubaine pour la planète. Oui, enfin ce serait vrai si, malheureusement, les pays développés ne polluaient pas de plus en plus. Parce qu'il est là le problème. Il n'est pas dans le nombre de personnes, il est dans la quantité de pollution qu'on génère. Si on est moins mais qu'on pollue tout autant, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Donc l'enjeu n'est pas seulement démographique. Je ne veux pas me faire taper sur les doigts, mais si la natalité baisse, l'immigration peut compenser. Bien sûr, c'est une des méthodes de compensation. Une des raisons pour lesquelles Meloni a accueilli un demi-million d'immigrés en un an, en deux ans, en Italie, c'est pour des raisons démographiques. L'Italie a un problème démographique plus grave que celui de la France, et il y a besoin de main-d'œuvre. Pourquoi vous croyez que en ce moment, Éric Zemmour insiste énormément sur le sujet de la natalité et de la démographie ? C'est parce que lui, il voit ça comme un problème, le fait d'avoir besoin d'immigrer pour faire tourner une économie. Donc il veut des petits-enfants français. Il peut pas être partout pour les faire. Non, c'est pas très grave. On lui en veut pas. Ce serait quand même cocasse qu'un RN au pouvoir augmente volontairement l'immigration massivement. Mais c'est, en fait, c'est, 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 c'est la réelle politique, hein. C'est que tu peux être président du RN, si tu as tous les secteurs économiques de France qui t'expliquent qu'ils ont besoin de main-d'œuvre immigrée le plus rapidement possible parce que là, c'est juste pas possible de soutenir la croissance du pays, bah, tu es obligé de te rendre à l'évidence et à la nécessité. Et c'est ce qu'a fait Mélanie. C'est comme si LFI arrivait au pouvoir et augmentait l'âge de la retraite. Oui, un peu. LFI, ils ont dit retraite à 60 ans avec 40 annuités. C'est leur programme. Bah, je suis curieux. Ça dégoûte de la politique si personne ne respecte son idéologie et ses déclarations. Non, mais en fait, tu peux promettre monts et merveilles à tes électeurs. C'est gratuit. Tu peux y aller. Si jamais t'es élu, tu te retrouves au pouvoir. Et là, ça peut changer la donne. Parce que tu peux te retrouver face à des réalités, où pour le coup, c'est à toi de prendre les décisions, c'est à personne d'autre. T'es plus dans l'opposition, t'es aux manettes. Et parfois, tu peux être contraint de renier sur certaines propositions que t'avais faites, parce que c'est pas soutenable. Parce que les choses ont changé, parce que le contexte a changé. Merci au donateur anonyme qui a offert 10 subs au chat. 10 subs ! Incroyable ! 10 subs offerts au chat, c'est très généreux, merci beaucoup. Merci à la personne anonyme qui a fait ce beau cadeau de Noël. Combien ? Ça me gêne de plus en plus les concurrents de Bardella en 2027, donc Édouard Philippe ou Retailleau, ça commence à se ressembler. Édouard Philippe et Retailleau, tu les mets dans le même sac, toi ? Ouais, quand même pas pareil, Édouard Philippe, il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, Retailleau a été dans l'opposition, il est devenu ministre dans des conditions très particulières sous François Bayrou. Ouais. Sur la colonisation, j'ai entendu une dinguerie. Ouais, Édouard Philippe qui dit que la colonisation n'a pas été un crime. Bien sûr, qui a une position assez ancienne à droite. Hein. Sur ce sujet-là, c'est pas très nouveau. Sarkozy avait fait bien pire en président de la République dans son discours de Dakar. Sur l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Donc Retailleau et lui, c'est kiff-kiff. Non, mais si vous voulez, hein, je ne veux pas vous empêcher de faire un sac et de foutre des trucs différents dedans pour vous dire que c'est pareil. Hein. Moi, je vous ai déjà dit, mon père considère que le PS et LFI, c'est la même chose. C'est pareil. C'est la même soupe. Bon, c'est son point de vue. Non, il y a quand même 2-3 différences, mais arrête, c'est des picadilles, c'est des conneries de la gauche qui s'invente des différences, alors que tout ça, c'est du marxisme à la con. À la fin, c'est plus d'impôts, voilà. Donc c'est kiff-kiff, pour reprendre ton terme. Bon. Oui, si tu veux. Non, mais si tu veux, si tu veux. Bon, pas forcé, hein. Ça va être sympa ton Noël. Mais non, mais c'est toujours très sympa. Hein. Ton père regarde Backseat. Ouais, ça lui arrive de regarder Backseat. Il aime bien, il aime bien Backseat, évidemment. Ou alors il a la politesse de pas me dire qu'il aime pas. Mais non, il aime bien Backseat. Mais il est bien Usul. Hein. C'est intéressant ce qu'il dit. Bon, il dit n'importe quoi, mais il parle très très bien quand même. On sent que la pensée est structurée et ça, c'est plaisant. Oui, c'est Jules. Mais il préfère Léa. Il adore Léa. Il aime bien. En plus, il a discuté avec elle une fois après une émission. Il dit super, il adore Léa. Il adore Adèle, mon père. Il la trouve trop cool. Elle est super marrante. Le fameux n'importe quoi structuré. Ouais. Non, mais... Mon père qui me dit, ouais, oh, ça me rappelle mes années étudiantes à la fac, quand on s'engueulait avec les marxistes, ces imbéciles qui venaient réciter le petit livre rouge dans les amphis. On est complètement galvanisé par une idéologie débile. Et on s'engueulait avec eux. Et il y avait eu des bastons, je me souviens. Et tout. Oh, c'est des bons souvenirs. Non, mais c'est des bons souvenirs. Ils étaient cons, mais c'est des bons souvenirs. Mais non, mon père, c'est une droite, c'est une droite moutonnière ou c'est une droite évidente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a voté à droite absolument toute sa vie parce qu'il est impensable de voter autre chose. On a toujours voté à droite, on est de droite, on est catholique. Il y a une espèce de mécanisme de. C'est comme si la réflexion n'avait pas besoin d'exister puisque tu veux voter pour quoi d'autre. Il y a une espèce d'évidence dans la droite. Et mon père, en l'occurrence, c'est un libéral, enfin, droite conservatrice. Il a bossé dans l'entreprise toute sa vie et il a un regard très négatif sur l'État, sur la fonction publique, sur la politique. Tout. Il a des réflexions du genre tous ces gens qui se gavent d'argent public, qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise de leur vie, qui n'ont jamais créé un euro de bénéfice dans aucune activité. Tout ça, c'est de la gabegie. L'État, c'est sale en soi, en fait. C'est une espèce de rejet du fonctionnariat. Les fonctionnaires dans leur bureau, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Tout, par exemple, typiquement, le genre d'argument que mon père par lequel mon père va être séduit, c'est l'attaque contre les agences de l'État. Vous savez, les agences, là, toutes ces agences qu'il faut supprimer, réformer et tout. Évidemment, il ne sait pas ce que c'est que ces agences, à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. Mais il s'en fout. Pas le sujet, c'est juste encore des bureaux dans lesquels on met des fonctionnaires financés par de l'argent public, comme si le privé n'était pas capable de bien faire le boulot par lui-même, etc. Mais c'est intéressant parce que cette réflexion de mon père sur l'argent privé versus l'argent public, sur l'argent qui a de la noblesse en lui-même, qui est celui qui est généré par l'activité et par le travail, versus celui qui est généré par la rente et la situation. La fonction publique, pour mon père, c'est impensable, c'est lunaire. La fonction publique, quelle horreur. C'est une réflexion sur laquelle je l'ai déjà entendu, par exemple. Mon père a beaucoup de mépris pour les gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils ont des rentes de situation. C'est-à-dire que tu es obligé de passer par eux. Pour des raisons légales ou pour des raisons économiques, tu n'as pas le choix. Par exemple, un assureur, mon père, il a horreur de ça. C'est-à-dire que les assureurs, c'est vraiment les derniers des merdes. Les gens sont obligés de s'assurer. Alors forcément, tu te fais du fric, connard. Enfin, si t'as aucun mérite. Les notaires, pareil, les notaires. Un mec que tu vas avoir une fois dans ta vie pour signer un papelard, tu vas lui lâcher 20 000 balles. Et c'est voilà, il y a des métiers comme ça. Parfois aussi les avocats, tu vois, ça lui est déjà arrivé de dire ouais, les avocats, pareil, les avocats, on est obligé de les payer parce que ils parlent un discours que personne comprend, ils maîtrisent les arcanes du truc, parce qu'on a inventé un système complexe juste pour justifier l'existence d'un métier. Bon, ça c'est du complotisme. Je suis pas d'accord. Mais en tout cas, l'argumentaire se tient dans son référentiel à lui, ça a du sens. Bon, ben voilà. Les banquiers, mais pareil, les banquiers. Les banquiers, oh là là, mon père a un mépris pour les banquiers. Quel métier de connard. Le mec, il est là, il décide si oui ou non, il va te donner un crédit pour acheter ta baraque que tu vas payer avec ton pognon, que tu vas générer par ton travail. Donc bref, vous voyez le discours qui est un peu plus subtil que seulement les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Donc non, ouais, c'est une pensée de droite, que je trouve intéressante, quoi. C'est pour ça que j'ai voté Chirac en 95. Pour qui d'autre voulais-tu qu'on vote ? Sur le racisme, il est comment, par exemple ? Pas ouf. Non. J'adore ton père. Non, mais moi aussi, j'adore mon père. Pour un milliard de raisons. Assez peu politiquement, mais pour tout le reste. Mais c'est pas grave, on s'en branle. Est-ce qu'il voterait pour une femme à la présidentielle, ton père ? Ouais, je pense. Ouais. Je sais pas si je pourrais avoir un père de droite perso. Bah, après, je vais pas vous raconter ma vie parce que c'est personnel, mais pour te rassurer, moi, entre mon père et moi, ça a été très très difficile pendant des années, notamment pour des raisons politiques. Pas seulement, mais notamment pour des raisons politiques. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Tout roule, on dîne ensemble, ça nous fait super plaisir. Enfin, tout va bien. Mais non, il y a eu des années où... ah bon, après, j'étais très borné aussi à l'époque. On choisit pas. Bah non, on choisit pas. Non, après, on peut choisir de faire avec ou pas. Hein. Je forcerai jamais personne à rester au contact de ses parents. Mais et du coup, c'est au lycée ou à la fac que t'as fait tes armes politiques un peu plus à gauche ? Lycée. Il y a eu la réforme Fillon quand j'étais en seconde. Puis le CPE quand j'étais en terminale. Je suis droitard, j'ai que des gauchistes dans ma famille, mais ça se passe bien. Bon, tu vois, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est quoi la réforme Fillon ? La réforme Fillon, on est en 2003, et je crois que c'est une réforme du lycée, réforme du bac, réforme de l'orientation, je sais plus très bien. Moi, j'ai choisi de pas fréquenter les sympathisants d'extrême droite. Ben non, moi non plus. Moi, je m'entends bien aussi avec mon père. Il n'est pas facho, mon père. Il a toujours eu beaucoup de mépris pour l'extrême droite. Il a plus eu du mépris qu'autre chose, d'ailleurs. Vraiment. Mais c'est des cons. Ils racontent de la merde, c'est des imbéciles. C'est vraiment le vieux Jean-Marie et la Marine, là. Vraiment, il n'y a rien à reprendre et tout. C'est vraiment des débiles. Donc il est pas facho et ça aide. Il serait profondément fasciste, ce serait compliqué pour moi. Évidemment, je vais pas faire semblant. Le mépris pour les politiques en général, je suppose. Oui, clairement, mon père a un mépris pour les politiques en général. J'ai été éduqué au Guignol de l'Info, à Coluche, à des proches. J'ai été éduqué avec ça pour en rire, mais aussi parce que ça dit quelque chose du cirque et de la comédie humaine qu'est la politique. Les Guignols de l'Info, tu pouvais les regarder de plusieurs manières. Merci Elsbad. Tu pouvais les regarder comme un divertissement très amusant et politique, où tu apprends des choses, où il y a un message derrière, etc. Tu pouvais aussi regarder les Guignols de l'Info pour nourrir une colère contre les politiques. Tous les politiques. C'est tous des cons, ils sont tous nuls, c'est tous des marionnettes, etc. Enfin, tu pouvais faire ça. Et ça, c'était plutôt mon père, je pense. Mais... Donc je sais plus pourquoi je disais ça. Non, sur le fait que aujourd'hui je m'entends très bien avec mon père et tout va bien et ça me fait plaisir. Mais j'ai la chance qu'il soit pas facho. Voilà. Tant mieux pour moi. Je vais considérer qu'il est border sur certains trucs. Ma sensibilité. Comment il vit le rapprochement avec le RN et les Républicains? Il en pense quoi de Retailleau et de Ciotti? Pas grand-chose. Il suit pas beaucoup l'actualité, mon père. Il est un peu en dehors de ça. Hein. C'est pas... Je lui ai pas demandé. Je sais même pas s'il sait qui est Éric Ciotti. Mais par contre, il se présente aux élections municipales. Et ça, ça fait plaisir. Enfin, moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche. Il est en ce moment, il fait des réunions avec des habitants pour commencer à constituer une liste, pour se présenter avec un semblant de programme politique. Il m'a posé des questions sur les seuils d'élection aux élections municipales, les 5%, les 10%, etc. C'est trop cool. Moi, je suis trop cool. Il va devenir conseiller municipal, si tout se passe bien. Et ça se présente comment ? En fait, c'est impossible à dire. Il se présente dans une ville de 1500 habitants. Donc vraiment, c'est un village, le truc. Il se présente dans un village de 1500 habitants. Il y a deux listes concurrentes. C'est impossible de jauger ce que les gens vont voter, pas voter. Il y a quelques centaines d'électeurs, pas plus. C'est jouable. Ouais, je pense. Enfin, je pense, j'en sais rien. En fait, je connais pas. Ça se trouve, Salis va gagner. Ça se trouve, ils vont perdre. Je suis entrepreneur et je gravite dans ce milieu quotidiennement. On se pose beaucoup la question de s'il serait bon pour l'État d'avoir un profil entrepreneur, genre Xavier Niel, à la tête du pays. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? J'ai pas d'avis sur Xavier Niel. En fait, mon avis, c'est on s'en branle du profil du mec. Pas une question de profil. C'est une question de politique qui sont menées. C'est ça qui compte. Le général de Gaulle, il était militaire. Voilà. Pardon, mais il était militaire. À quel moment un militaire, c'est bon et c'est bien naturellement pour diriger un État ? Et une économie, une éducation nationale, un service de santé, etc. Enfin, tu vois, ça marche pas comme ça. Emmanuel Macron, il est banquier. Est-ce que c'est naturellement bon ? Est-ce que c'est spontanément souhaitable ? Non, en fait, on s'en branle. Peu importe. Volodymyr Zelensky, il est comédien. Tu vois ce que je te dis ? Les profils des mecs, c'est pas très intéressant, je pense, hein. Ouais, Reagan aussi, il était comédien. Trump, il a fait du business dans l'immobilier toute sa vie. Donc je sais pas, je pense que c'est une erreur que de considérer le profil de la personne comme plus importante que la conviction politique et le programme politique. Oui, mais la question, c'est celle de quelqu'un qui appliquerait une logique entrepreneuriale à la tête de la France. Je suis désolé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une logique entrepreneuriale, ça veut dire quoi ? Un système de santé, ça ne se pilote pas comme une entreprise, je suis navré. C'est pas possible. C'est un système de santé, c'est pas une entreprise. C'est spécifique, c'est particulier. Voilà. Je ne dis pas que les fonctionnaires le font bien, mais voilà, une armée, je ne sais pas ce que ça veut dire, une logique entrepreneuriale à la tête de l'armée. Une éducation nationale, un ministère de la culture, le ministère de l'agriculture, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'un entrepreneur ferait mieux dans la gestion de la crise de la dermatose nodulaire ? Et par contre, ça me pose un problème, quand même, philosophiquement, ça me pose un problème, merci Hélène, ça me pose un problème de supposer que l'entreprise, c'est mieux par nature que l'État. L'entreprise, c'est utile, l'entreprise, c'est efficace, l'entreprise, ça génère du bénéfice, alors que l'État, c'est gros, c'est lourd, ça coûte de l'argent, c'est pas utile et efficace. Ça, cette dichotomie-là, elle me pose un problème philosophique. Je pense que vraiment, c'est une connerie. Un État n'est pas une entreprise, ne le sera jamais, ne peut pas l'être. J'ai bien aimé, d'ailleurs, tiens, c'est un exemple, mais j'ai regardé l'audition de Delphine Ernot, la patronne de France Télévisions, devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et dans son propos introductif, elle a dit un truc que j'ai trouvé vachement bien. Elle a décidé d'attaquer frontalement la question de la privatisation de France Télévisions. Parce que la privatisation de France Télévisions, vous le savez, c'est au programme de l'extrême droite qui veut privatiser France Télévisions. Et elle a dit, mais il y a quoi de rentable dans France Télévisions ? Vous croyez que le Téléthon, c'est rentable ? Vous croyez que les antennes de France 3 Régions, c'est rentable ? Vous croyez que les Outre-mer, c'est rentable ? Vous croyez que le handisport, c'est rentable ? Vous croyez que le théâtre vivant, c'est rentable ? Vous croyez que l'opéra, c'est rentable ? Vous croyez que le documentaire, c'est rentable ? Il n'y a pas de... Les émissions religieuses du dimanche, elle en a parlé aussi. Les émissions religieuses du dimanche, vous croyez que c'est rentable ? Donc, en fait, il n'y aura pas de privatisation de France Télévisions, ça n'existera jamais. Il y aura éventuellement une suppression de France Télévisions et une redistribution des antennes à des entreprises privées. Mais faites pas l'erreur de croire qu'ils vont faire du France Télé. Hein. Ils vont pas faire du France Télé. Non, ils vont faire des choses rentables. Ils vont faire rentrer de l'argent dans les caisses parce qu'ils ont besoin, publicité, film, machin. Ils vont faire de la fiction, ils vont faire plein de choses. Ils peuvent faire à la marge des trucs un peu intéressants sur des documentaires, des machins. Mais la réalité, c'est que France Télé n'est pas rentable. Ne peut pas être rentable, n'a pas vocation à être rentable, désolé. On va pas gagner du fric en faisant des programmes éducatifs pour les enfants pendant le Covid. Jamais. C'est un service public, c'est un fucking service public. Donc la privatisation de France Télé, putain, ne vous faites pas avoir par le piège sémantique de ce truc-là, quoi. CNews en région, non mais CNews, mais regardez CNews, c'est super intéressant. Plus moi, je suis producteur audiovisuel, je sais un peu comment ça marche. CNews, c'est une chaîne qui fonctionne à bas coût. Parce que je vous prie de me croire, ça coûte pas très cher de faire un plateau de Pascal Pro. T'as 7 ou 8 caméras, 6 ou 7 personnes en plateau. Ça peut tourner des heures. On est en studio, on est à Paris, c'est pas très cher. Allez envoyer des reporters en Martinique avec des caméras de France 3 Régions pour aller tourner un sujet pour le journal télévisé, ça coûte cher. Là, tu mobilises 3 personnes pendant une journée. Bah, c'est une mission de service public. T'es sûr, faire des trucs en plateau, c'est moins cher. Donc, bon, ben voilà. Et j'ai bien aimé ce propos introductif de Delphine Ernotte sur juste rendez-vous compte de la réalité de ce que c'est qu'un service public, en fait. Parler de privatisation, parler de rentabilité, etc. Pas possible, quoi. Juste pas possible. Mais attendons-nous à ce que l'audiovisuel public soit attaqué. Il l'est déjà. La commission d'enquête qui a été déclenchée par l'UDR sur l'audiovisuel public. Enfin, j'ai pas envie d'être complotiste, mais enfin, ça sent quand même fort le soutien à Vincent Bolloré. Ben, c'est sûr, il y en a un que ça arrange, l'affaiblissement de l'audiovisuel public, c'est Vincent Bolloré. Un concurrent direct. Il est bien content, lui. Quand on fout dans la merde l'audiovisuel. Donc, public, en l'occurrence. Donc, à mon avis, cette campagne présidentielle, elle va être dure aussi là-dessus, quoi. Par contre, ils attaquent pas les réseaux sociaux, le bassin de propagande et désinformation. Oui, évidemment. Ça va, Rachida ? Putain, et Rachida Dati qui défend pas l'audiovisuel public, quoi. Ça me fume. Enfin, ça me fume, c'est ce que je te dis. Je suis juste profondément déçu, mais... Rachida Dati, elle est en campagne pour la mairie de Paris. Elle a besoin de se mettre bien avec les équipes de Bolloré. Donc elle défend pas l'audiovisuel public. On pourra dire ce qu'on voudra des prédécesseurs et prédécesseuses... De Rachida Dati, mais Rima Abdul-Malak, elle a défendu l'audiovisuel public. Pas toujours, mais à des moments, elle a osé prendre des coups aussi. Bah, c'est ça dont on a besoin comme ministre, en fait, de tutelle sur l'audiovisuel public. Donc l'audiovisuel public, on ne pourra jamais remettre son existence en question parce que c'est public, c'est inattaquable. Ah mais si, je t'en prie, vas-y, attaque l'audiovisuel public. Hein. Attaque l'audiovisuel public. Je te dis juste que si ton argument, c'est de parler de privatisation et de rentabilité, tu te fous de la gueule du monde. Mais tu peux souhaiter la disparition de l'audiovisuel public. Tu peux juger souhaitable qu'il n'y ait plus de service public de l'audiovisuel en France. Ça tire à boulet rouge sur l'audiovisuel public depuis un moment. C'est une attaque en règle planifiée de Bolloré & Co. Et le pire, c'est qu'à force de répéter la petite musique sur leurs médias, les gens répètent les éléments de langage et ça devient des faits. Pour certains, on a un audiovisuel public de très grande qualité. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. J'imagine pas complément d'enquête sur une chaîne privée. Mais après, je défends aussi le pluralisme de l'offre audiovisuelle en France. C'est-à-dire que je défends évidemment l'audiovisuel public parce que je pense que c'est important que ça remplit des missions de service public qui sont utiles. Mais je veux pas qu'il n'y ait que de l'audiovisuel public à la télévision. Je suis pas pour le retour à l'ORTF, pas du tout. Je pense que c'est bien qu'il y ait des chaînes privées aussi. Aussi. Ça m'emmerderait qu'il n'y ait que des chaînes privées. Ça existe une chaîne privée qui appartient pas à un milliardaire ? Martin Bouygues, il est milliardaire ? Oui, peut-être. En grosse chaîne, je vois pas. Non, je vois pas non plus. Sur les plus petites chaînes, je sais pas. T18, je sais pas. Les audiences télé baissent. Les gens regardent de moins en moins la télé. Il faudra bien changer quelque chose. Ouais, et c'est en cours. Alors, c'est pas pour défendre France Télévisions particulièrement. Il se trouve que France Télévisions est dans un virage depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus important, vers la diffusion numérique. Aujourd'hui, le principal portail d'accès à France Télévisions, c'est France.tv. C'est pas la télécommande de la télé, c'est France.tv. Le portail numéro un d'accès aux programmes qui sont proposés. Ensuite, il y a de plus en plus de YouTube aussi. Twitch, bon, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. je ne sais pas s'ils vont réessayer. Des podcasts pour Radio France aussi. Les podcasts de Radio France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils cartonnent. Marchent très très bien les podcasts de Radio France. Le site France.tv a souvent des super propositions de films gratuits. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément. Donc. France Info sur Twitch, ça rame. Pourtant, il faut un format sympa le mercredi en fin de journée. Ouais. Ça a toujours été compliqué, les médias traditionnels sur Twitch. Il y en a beaucoup qui se sont essayés, qui s'y sont pété les dents. Et en même temps, c'est parce que pour un milliard de raisons, Twitch n'a pas du tout la même grammaire d'usage que ce que proposent les médias traditionnels. Notamment, le truc qui marche le mieux sur Twitch, c'est l'incarnation. J'en sais quelque chose, j'ai créé une web TV, ça marchait pas, je me suis appelé Jean Massier, ça marchait beaucoup mieux. c'est l'incarnation en fait, c'est le fait que tu es une personne sur ta chaîne, que tu habites ta chaîne, que tu incarnes ta chaîne, etc. Les médias traditionnels qui présentent des visages différents à chaque émission, t'as pas le temps de faire connaissance avec quelqu'un, de créer une relation parasociale intéressante avec un créateur de contenu et tout, bah c'est chiant. ça marche pas. Acropolis, exactement. Boat de France Télé. Alors, Boat de Zerator, quand même un truc très très intéressant que Zerator a réussi à faire, c'est qu'il a codiffusé simultanément Boat sur sa chaîne à lui et sur la chaîne de France TV. Et devinez sur quelle chaîne ça faisait de l'audience. Après, ça peut être une strat hein, de la part de France TV slash que de faire de la codiffusion avec des streamers pour faire porter leur chaîne. Sauf qu'à mon avis, le vase communicant marche pas très bien. J'en sais rien, j'ai pas les stats. Comme le GP3 aussi. Ouais. Et une des chaînes, alors je prêche pour ma paroisse parce que je présente une émission sur leur chaîne, mais une des chaînes de médias traditionnels qui, je trouve, a le mieux réussi son entrée sur Twitch, c'est Arte. Parce que Arte, d'entrée de jeu, ils ont pris une strat radicale qui était de dire on va pas faire Arte sur Twitch, on va faire du Twitch dans Arte et on va faire venir des présentateurs de la plateforme qui vont venir incarner des émissions. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec Laserdisc, que tu te retrouves avec Jour de Play, Eurogaisseur, etc. C'est incarné par des gens déjà connus de la plateforme, qui continuent à faire ce qu'ils font ailleurs. Et pour moi, c'est une belle sucette pour toi-même. Bah, disons qu'avant de travailler pour Arte, je pensais déjà ça. Et je leur avais dit d'ailleurs à Arte. Je leur avais dit, vous avez raison de faire ça. Continuez à bosser avec Pierre Lapin, avec Orti, avec Queenie. Vous avez raison de faire incarner vos émissions par des gens de la plateforme. Parce que si vous ramenez des visages d'Arte, en fait, on ne les connaît pas. On ne sait pas qui c'est. J'ai rien contre toi, madame, mais je ne vais pas cliquer. Voilà. Libération pour la presse, ouais, Libé qui fait l'émission frontale sur Twitch une fois par semaine. Mais ça peut marcher, hein. Je pense que tu peux avoir une forte incarnation. Tu peux avoir une forte incarnation Twitch pour un média traditionnel. Par contre, il faut assumer cette incarnation. Mais ça demande de s'engager sur du temps, de dire que c'est telle personne qui va porter la chaîne. Luma s'en sort bien aussi. Ouais, Luma s'en sort bien. Luma fait un très très bon travail sur Twitch. Avec Saïra notamment. J'ai connu BFM TV sur Twitch. Bah, moi, je me souviens de BFM TV sur Twitch. C'était le premier crash industriel d'un média traditionnel qui débarque sur Twitch. Parce qu'il faisait des streams avec des journalistes de BFM TV qu'on ne connaît pas. Tout gentil, bien peigné, qui discutait de l'actualité, qui interagissait relativement peu avec le chat, et bon, on se faisait chier, quoi. Ça marchait pas. Et ils ont fini par arrêter. Ils ont fini par arrêter parce que ça prenait pas. Et effectivement, ça prenait pas. Il s'est passé la même chose pour France Info. Il a proposé des talks, des trucs hebdomadaires et tout. Après, vous savez, c'est très ingrat, parce que vous vous en doutez, mais moi, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus me demander au fil des années comment on fait pour aller sur Twitch? Est-ce que tu as des conseils à nous donner? On y réfléchit. Y compris des médias traditionnels ou des politiques ou des trucs comme ça. Et en fait, je leur ai toujours dit la même chose. Vous savez, Twitch, c'est ingrat. Vous n'existez que quand vous streamez. À la différence de YouTube, par exemple. YouTube, une fois que votre vidéo elle est postée, elle est disponible sur YouTube. On peut la voir, on peut la revoir. Twitch, quand vous streamez pas, vous n'existez pas. Donc si vous faites un stream par semaine, vous n'allez pas exister. Twitch, c'est minimum tous les jours. C'est horrible, hein, mais c'est minimum tous les jours. C'est comme ça que ça marche, Twitch. C'est terrifiant, c'est très dur, c'est très demandant, ça demande beaucoup d'énergie de machin, mais c'est une plateforme de live. Il faut être là, en fait. Il faut liver le plus souvent possible. Donc, le fameux « je vais me lancer sur Twitch, je vais commencer petit avec une émission hebdo », c'est la garantie que tu arrêtes dans 2 mois. Et combien j'en ai connu des potes qui se sont arrêtés au bout de 2 mois. Parce que ça marche pas. Ben non, ça marche pas. Tu peux pas faire croître une audience en étant là qu'une fois par semaine. Merci Pierrick. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des chaînes YouTube de replay Twitch. Ouais, c'est pour ça et c'est pour une autre raison. C'est que les replays sur Twitch disparaissent automatiquement au bout de 3 mois, je crois. Je ne sais plus quelle est la durée exacte. Mais en gros, si tu veux garder des archives de ta chaîne, tu es obligé de les mettre ailleurs. Et YouTube, c'est le seul service gratuit d'hébergement. Donc tu vas sur YouTube. Donc c'est aussi pour ça qu'on met nos replays sur YouTube. C'est parce que si on les laissait sur Twitch, ça disparaîtrait. C'est 2 mois maintenant. 2 mois, putain la vache. 15 jours quand t'es pas affilié. Oh. Ma fille te dit au revoir. Au revoir. Elle a dit, il dit pas au revoir. Si, j'ai dit au revoir. Au revoir. On dit tous au revoir à la fille de Barbe Rose. Elle a 20 ans, sa fille. Voilà. Vous êtes extrêmement mignon dans le chat. Vous êtes extrêmement mignon. De toute façon, tu peux mettre que 100 heures de vidéos sur Twitch maintenant. Bah oui, et c'est lié à un fait que... Enfin, faut se rendre compte d'un truc, c'est de à quel point c'est cher, Twitch. L'entreprise Twitch, qui appartient à Amazon, dépense un fric monstrueux uniquement en infrastructure de diffusion et en serveur live. Là, ce que je suis en train de vous diffuser, c'est un flux en direct, en haute définition. C'est monstrueusement cher. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y avait même un responsable de Twitch une année qui avait dit que Twitch perd de l'argent sur tous les streamers qui ont moins de, je ne sais plus combien, de centaines de viewers. Il y a zéro monde où c'est rentable, en fait. Et donc... C'était 300 viewers, tu te souviens du chiffre, c'était 300. Je crois que c'était peut-être ça, ouais. Donc, comme vous le savez, Twitch ne gagne pas d'argent. Amazon met du fric dans le pot tous les ans. Et Twitch n'est pas rentable. Pourquoi ? Parce que Twitch dépense et crame son pognon dans des serveurs pour permettre la diffusion des trucs. Le truc, c'est que Twitch, je peux le comprendre, fait des choix économiques et n'a pas envie de mettre de l'argent dans des serveurs pour des replays, qui sont en plus assez peu consultés, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que Twitch a mis en place cette règle, c'est pour réduire le flot de vidéos dormantes et pour mettre toute la patate et tout l'argent dans la diffusion live. D'un autre côté, c'est Amazon qui facture les serveurs à Twitch, donc s'ils mettent les montants qu'ils veulent. Alors déjà, heureusement qu'Amazon est là pour mettre à disposition ses serveurs de Twitch, parce que je ne sais pas combien ça coûterait s'il n'y avait pas Amazon pour backer derrière. Et ensuite, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit pour Twitch d'utiliser les serveurs d'Amazon. Après, est-ce que cette non-rentabilité, c'est pas aussi une stratégie comptable ? Non. Pourquoi tu voudrais que ce soit une stratégie de ne pas être rentable ? Twitch n'est pas rentable, mais ça doit pas mal jouer dans le marketing d'Amazon vu que tous les streamers font de la promotion pour les abos Prime. Ouais ! Non, mais Amazon s'y retrouve... Enfin, comment dire ? Amazon ne s'y retrouve pas. Amazon accepte de perdre de l'argent parce que, d'une part, ça n'est pas complètement inutile à Amazon puisque ça permet de faire de la pub pour l'abonnement Prime, même si j'ai du mal à mesurer, ils doivent avoir des chiffres chez Amazon, combien ça leur rapporte de nouveaux abonnés Prime, etc. Et d'autre part, Amazon accepte de perdre de l'argent avec Twitch parce qu'Amazon a confiance dans la capacité de Twitch à générer de l'argent dans le futur. C'est le modèle économique de la start-up. On n'est pas rentable maintenant, on ne va pas être rentable dans les 10 prochaines années. Par contre, si on réussit notre coup, on est leader du marché et pendant les 30 ans qui suivent, on génère de l'argent, potentiellement beaucoup d'argent. Bon, bah Twitch, c'est une start-up qui a été acquise par Amazon, qui perd toujours de l'argent. Amazon compense les pertes pour l'instant. Parce que méfiez-vous, hein. Enfin, un jour, il n'est pas impossible que les costards cravates d'Amazon changent de braquet et commence à en avoir ras-le-bol de perdre du pognon avec cette histoire de jeux vidéo, là, Twitch, et décide de débrancher la prise. Et avant de débrancher la prise, ils vont commencer par prendre des mesures de rétorsion pour faire cracher de l'argent au système. Rappelez-vous ce qui s'était passé quand Amazon, enfin pas Amazon, mais Twitch, avait modifié la rémunération des streamers pour gagner un peu plus d'argent. Bah, les streamers avaient gueulé. Ça avait fait une très mauvaise pub à Amazon et à Twitch, donc Twitch avait décidé de faire un retour en arrière, de changer un peu la donne et tout. Aujourd'hui, Twitch a une stratégie qui consiste à mettre le paquet sur la publicité. Alors la publicité, Twitch a déjà mis le paquet sur la publicité par le passé, ça s'était pas très bien passé, parce que je sais pas si leur régie pub était à chier, mais en tout cas, ils n'arrivaient pas à vendre des espaces publicitaires. comme Twitch est en train de prendre de l'importance, que c'est de mieux en mieux ancré dans le paysage et tout, Twitch met le paquet sur l'offre publicitaire pour essayer d'avoir une force de frappe qui leur permet de générer beaucoup d'argent. On verra si ça marche. C'est pour ça qu'il y a de la pub sur ma chaîne depuis un mois. Parce que Twitch nous a envoyé un message en nous disant, si vous activez la publicité sur votre chaîne, voilà la rémunération que vous allez toucher. Et clairement, c'était très incitatif. On verra comment ça va évoluer dans le temps. Parce que j'ai déjà eu des offres incitatives de Twitch qui, deux mois plus tard, devenaient « Vous gagnez 2 euros, ça vous va ?» MDR. Avant, Twitch avait une régie séparée. Maintenant, ça fait partie de l'offre pub d'Amazon. Ouais, ils ont été intégrés à l'offre pub d'Amazon. Bah, si ça leur permet de générer des offres publicitaires et de financer le service, très bien. J'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais il n'y aurait pas moyen que tu diffuses tes streams sur YouTube en parallèle ? Non. Non, je ne l'ai jamais fait, j'ai pas envie de le faire, je le ferai probablement jamais. La codiffusion. Alors, il y a une époque, c'était à la mode, vous n'avez pas connu ces années-là, hein. C'était 2016-2017. Surtout 2017, la codiffusion, on va faire des streams sur Twitch, YouTube et Facebook en même temps. C'était affreux. C'était affreux parce que toute l'essence de Twitch, c'est le chat. Or, le chat, il est sur Twitch, il n'est pas sur les autres plateformes. Donc, ouvrir une possibilité de discuter sur un live sur YouTube en parallèle, c'est inviter des gens à rentrer dans un panneau en disant « Venez discuter dans le chat, le streamer va lire vos messages. » Non, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Et j'ai pas envie d'avoir les yeux sur plusieurs chats. Hardisk le fait encore. Je sais. Hardisk le fait. J'ai eu plein de fois la discussion avec Hardisk. Hardisk, il n'a pas la même stratégie que moi. Hardisk, il essaie de développer sa chaîne YouTube aussi. Ses chaînes YouTube. On n'est pas tout à fait dans les mêmes stratégies. Mais... Il y a un bot qui fusionne les chats. Ouais, je sais. Je sais. Mais... Non, j'ai pas envie de streamer sur plusieurs plateformes en même temps. Peut-être que je le ferai un jour, hein, je veux pas fermer la porte dans l'absolu, mais ça me botte pas en fait. C'est gérable avec peu de viewers. Alors c'est peut-être aussi ça. Non, puis par ailleurs, moi je me sens bien sur Twitch. Enfin, j'aime bien cette plateforme. Je me sens à l'aise dessus. J'ai une bonne communauté. J'ai de l'audience. Je la garde. Je continue comme ça. Ça me convient. J'ai pas encore vu de game changer absolu sur de la codiffusion. Donc j'ai pas envie de codiffuser. J'ai déjà streamé sur YouTube par le passé quand j'ai été banni de Twitch en 2015. Clairement j'ai pas envie d'y retourner, c'était pas un très très bon souvenir sur les outils de stream et sur l'interaction avec le chat et tout, enfin vraiment c'était pas fou. Voilà. Est-ce que tu postes les replays de live sur YouTube? Ouais, sur ma chaîne qui s'appelle Jean Massier Replay. C'est pour quel motif le ban en 2015? C'est parce que je parlais de politique et pas de jeux vidéo. Et qu'à l'époque, c'était interdit. À l'époque, la charte de Twitch était beaucoup plus sévère qu'aujourd'hui. Parce qu'ils avaient eu des problèmes en 2013-2014 avec des créatrices de contenu aux États-Unis qui faisaient des contenus de charme sur la plateforme. Ils avaient une charte qui interdisait de parler d'autre chose que de jeux vidéo. Et tu devais jouer aux jeux vidéo assez souvent. C'est-à-dire qu'il y avait même des règles un peu à la con où tu n'avais pas le droit de discuter avec ton chat pendant trop longtemps. Il fallait quand même qu'au bout d'un moment, tu lances un jeu. Ouais. Après, ils ont dit non, il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a aussi toute la culture geek. Culture jeu vidéo, donc tu peux parler d'art, tu peux faire des dessins, tu peux faire de l'artwork, tu peux faire du codage, tu peux faire du graphisme, tu peux faire des figurines, tu peux faire du cosplay. Mais il faut que ça ait un lien avec le monde geek, machin. Bref, c'était un peu bordélique leur truc. Et en 2017, Twitch a ouvert les portes en créant de nouvelles catégories sur Twitch qui n'existaient pas. C'est la catégorie Just Chatting, la catégorie Talk Show et Podcast, et la catégorie Créative et Musique. Et c'est vraiment à partir de 2017 que Twitch a accepté de dire, en fait, peu importe le contenu que vous faites, tant que c'est sur Twitch, on est content, quoi. Et le contenu sur Twitch est resté majoritairement jeu vidéo, il l'est encore aujourd'hui, donc il n'y a pas trop de risque de perdre l'identité de la plateforme. Et en 2020, ça a explosé. Ouais, bah, le confinement partout dans le monde a créé de l'intérêt pour Twitch de la part de beaucoup de gens qui connaissaient peu la plateforme et qui ne sont pas particulièrement amatrices de jeux vidéo. Le symbole de ça en France, c'est Samuel Etienne. D'ailleurs, tu ne te mets jamais en catégorie politique, c'est voulu. Oui, alors déjà, il n'y a personne dans la catégorie politique, donc ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, moi, je fais plus de l'actu que de la politique. Enfin, les deux sont liés, mais... c'est pas tout à fait le même genre de contenu. Non, mais pareil, l'année dernière, j'ai reçu un coup de fil de mon contact chez Twitch qui m'a dit, nouvelle règle, tu as l'obligation de mettre le tag politique dans les tags de description de ton live. Puis j'ai dit, ah bon, et pourquoi ça? Il m'a dit, ah bah c'est comme ça, c'est la nouvelle règle chez Twitch. Et moi, j'ai senti la douille venir. Vous me connaissez? J'étais en mode, mais attends. Si vous taguez tous les contenus qui parlent de politique avec le tag politique, est-ce que c'est pas une manière de les shadowban discrètement? Parce que on va pas se mentir, on n'est pas très attrayant pour les annonceurs, nous, les gens qui parlent de politique. Quelle marque a envie de s'associer à un contenu politique? Aucune. Aucune marque, dans son plan de com, ne prévoit « Ah, ce serait bien qu'on soit diffusé sur les chaînes qui parlent de politique. » Au contraire. Au contraire, c'est... Ils essayent de fuir ça au maximum. Donc moi, je sentais que le tag... politique allait être une espèce de manière détournée pour nous shadowban, quoi. Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à avoir des partenaires sur Backseat. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à avoir des partenaires sur Backseat. Backseat, c'est une émission d'actualité politique. Aucune marque n'a envie de sponsoriser Backseat. C'est pour ça qu'on bosse avec l'Agence française de développement. Ah! Parce qu'eux, ils veulent bien. Au contraire, ils trouvent ça chouette. Mais Donc, on va continuer à chercher des partenaires, évidemment. D'ailleurs, si vous connaissez des partenaires... Si vous bossez dans une boîte qui pourrait faire un before de Backseat, sachez qu'on serait très intéressé. Hein. N'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis. Je vois pas pourquoi, si vous n'êtes pas militant, ça devrait pas poser de problème aux annonceurs. En fait, peu importe. Qu'on soit militant ou pas, les annonceurs... C'est-à-dire, les thématiques qu'on aborde dans l'émission, c'est le budget de la sécurité sociale, c'est Gaza, c'est l'Ukraine, c'est les féminicides. Enfin, tu vois, bref, on parle de sujets. Il n'y a pas un seul plan de com' d'entreprise qui a envie de focusser ces sujets-là. Voilà, non. Au contraire, c'est même un peu casse-gueule, c'est glissant, on ne sait jamais, machin et tout. C'est pas hyper intéressant pour eux-mêmes, effectivement.
Ouais.
C'est les sujets qu'il y a à la télé, malgré tout. Ben ouais, mais à la télévision, tu peux toucher une quantité de gens tellement importante que ça te pose moins de problèmes. Mais nous, sur Twitch, sur YouTube, on fait de la micro-influence, c'est-à-dire qu'on a des communautés réduites par rapport aux masses de la télévision. On a des communautés réduites et des communautés qui sont très, spécifiées. Et c'est ça qui va intéresser les annonceurs. C'est pas très sexy pour les marques. Bah non, exactement. Donc, c'est le jeu. Hein, qui s'oublie que je vous dise, on joue avec les règles du jeu. Hein. Je déplore qu'on ait du mal à trouver des sponsors qui nous aident à financer Backseat. Mais on va y arriver. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça coûte combien une émission ? La production complète d'une émission Backseat coûte seulement 15 000 euros. Parce qu'on en fait 25 dans l'année. Donc on arrive à mutualiser les coûts. Hop. En avril-mai, tu pourrais contacter la DGFiP pour la déclaration de revenus. Tu déconnes, mais c'est pas une mauvaise idée. Non, mais bah, je veux dire, je serais chaud pour faire un before de pédagogie sur l'impôt, sur sa perception, sur son utilisation, etc. En vrai, pourquoi pas, tu vois, ça peut être un bon before de Backseat. C'est de notre mission pédagogique, de vulgarisation. On fait déjà ça avec l'Agence française de développement sur la politique d'aide au développement. Ça serait tellement utile. Ouais, franchement, ouais. Et bientôt l'URSSAF. Bah, en vrai, pourquoi pas, enfin, mais de toute façon, on est en train de se spécialiser dans les partenariats publics. Donc, donc ça me va, hein. La différence entre les impôts, taxes et les cotisations sociales, ça tue à quel point les gens savent pas. Bah ouais, mais quand tu sais pas, tu sais pas. Hein. Sincèrement, en période de déclaration, ce serait super utile. Bah ouais. De toute façon, enfin, un jour, il faudra qu'on fasse la liste des partenaires que j'ai eus en 10 ans. Je crois que j'ai bossé avec toutes les institutions de cette fucking république. Sans exception. Au moins une fois. Même avec l'armée, ouais. Ah ouais. J'ai fait un partenariat avec l'armée de terre. En 2017. Pour le 14 juillet, j'avais un partenariat avec le ministère avec l'armée de terre pour commenter en direct sur Twitch le défilé militaire. Et j'étais avec un jeune capitaine du 18e régiment du génie parachutiste qui était super sympa. Et en vrai, il était trop. Il est arrivé, il m'a dit en vrai, moi, je comprends rien à ton monde. Là, les Twitch, les influenceurs et tout, c'est pas du tout mon monde, je comprends rien, c'est... J'ai plein de trucs à apprendre et je lui ai répondu, mec, c'est exactement pareil de mon côté, je comprends rien à ton monde, l'armée et tout, les uniformes, les galons, les... je connais rien. Et donc on avait fait une super émission, qui est toujours sur YouTube, je crois, où non seulement on avait commenté le défilé militaire et le mec avait des trucs à nous dire sur tout. Genre, à chaque fois qu'il y avait un régiment qui défilait, il disait, alors eux, c'est le régiment qui font machin, qui font truc, et puis bidule, il y avait des questions du chat et tout, c'était trop bien. Et en plus, il m'avait expliqué toutes les décorations qu'il avait sur son... sur son uniforme, enfin, puis à la fin, il m'avait fait porter un sac à dos de parachutiste avec le parachute pour montrer le poids que ça représentait. Et bref, l'émission était trop cool. L'émission était super intéressante, on avait bien rigolé. Est-ce que c'est dispo quelque part ? Attends. Elle est peut-être en non répertorié. Hein. Elle est peut-être en non répertorié. Hein. Ouais, c'est possible. Eh ben, vous ne la verrez pas. Elle est totalement non répertoriée. Sorry. Rito. Super satisé après rien. Oh, c'est pas comme ça qu'on fait des bébés. Qu'est-ce que je voulais dire? Les copains, il est 16h. Il est 16h du matin. Demain, attention, je vais vous faire un teasing de ce qui nous attend demain. Attends, mais il est où? Ah non, il est dans mon sac. Attendez, je reviens. Demain, mesdames et messieurs, nous allons attaquer la lecture du livre politique de cette année 2025, un tournant dans l'histoire littéraire et politique du 21e siècle, le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, bien entendu, aux éditions Fayard. Je pense qu'on va jouer au jeu de « on prend des pages au hasard et on lit ». À mon avis, on va faire ça. Est-ce que le cours est obligatoire ? Oui, le cours est obligatoire. Oui, le cours est obligatoire. Vous devez venir, il y aura un contrôle. Voilà. Donc, j'ai hâte. Je ne me suis pas spoilé. Hein. Rien que pour vous. Hein. Je ne me suis pas spoilé. Hein. Il t'a dédicacé ? Non, il ne me l'a pas dédicacé, le salaud. Salaud. Donc, ouais, non. Bon allez, on va faire un raid chez Clément Viktorovitch, évidemment. Boum. Merci beaucoup d'avoir été là, les copains, c'était chouette. Merci d'avoir assisté aux questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Soyez sympa avec Clément Viktorovitch, faites-lui des bisous. Et on se retrouve demain. Merci, bonne soirée, à demain. Ciao.
C'est format long. Sur, il laisse les replays en longueur sur Twitch, mais ouvert seulement aux abonnés. Et ce qu'il met sur YouTube, c'est...